Vous écoutez
RMC.
Il est 7h pile sur RMC. Très bon réveil à toutes et à tous. Vous avez fait le bon choix.
RMC, Apolline Matin.
Et c'est l'heure d'un nouveau journal avec Clément Gouiz. Bonjour Clément.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Un pas de plus vers un procès pour Achraf Hakimi. Le joueur du PSG est renvoyé devant la cour criminelle départementale des Hauts-de-Seine pour viol. Ses avocats vont faire appel de cette décision. La démission de la présidente du Louvre validée par Emmanuel Macron 4 mois après le cambriolage du musée. On vous explique les coulisses de ce départ. Et le PSG mise ce soir sur le retour de Désiré Doué face à Monaco pour se qualifier pour les 8e de finale de la Ligue des Champions.
Achraf Hakimi devrait être jugé pour viol.
Ouais, la justice renvoie l'international marocain devant la cour criminelle départementale des Hauts-de-Seine. Le joueur du PSG avait été mis en examen en 2023. Une femme accuse le footballeur de l'avoir violé chez lui. Lui assure l'avoir seulement embrassé, accuse la plaignante de chantage. Ses avocats vont faire appel de cette décision. Mais en tout cas, Pierre Bazin, c'est un pas de plus vers la tenue d'un procès.
Oui, il y a 3 ans, la jeune femme qui accuse Achraf Hakimi dénonçait un baiser forcé, des caresses sur ses parties intimes, puis un viol au domicile du footballeur. Maître Rachel Flore-Pardo, l'avocate de la plaignante, salue la décision de renvoi.
Ce n'est absolument pas seulement sur la parole de ma cliente qu'il repose, mais sur de nombreux éléments du dossier. C'est ce qu'a démontré l'instruction et c'est ce que démontrera le procès qui aura lieu. Ma cliente est sereine et déterminée. Elle dénonce des faits de viol qu'elle a subis et elle ira au bout pour obtenir justice.
La défense d'Achraf Hakimi se dit surprise de ce renvoi devant une cour criminelle. Maître Fanny Collin, l'avocate du footballeur, dénonce des accusations qu'elle qualifie de mensongères.
La jeune femme qui se plaint a refusé de se soumettre à plusieurs reprises à des examens médicaux, ce qui a donc empêché toute recherche ADN que Achraf Hakimi appelait de ses voeux. Elle a refusé de permettre l'exploitation de son téléphone portable et elle a également, entre autres, refusé de donner le nom d'un témoin clé. Donc c'est une vraie problématique dans ce dossier.
Sur X, Achraf Hakimi a indiqué attendre avec calme ce procès.
La présidente du Louvre jette l'éponge 4 mois après le cambriolage du musée.
Laurence Descartes a présenté hier pour la 2e fois sa démission et cette fois-ci elle était acceptée par Emmanuel Macron. Le chef de l'État a salué son acte de responsabilité et l'a remercié pour son travail accompli depuis sa nomination en 2021. Alors pourquoi ce revirement? Que s'est-il passé en coulisses? Réponse de Sonia Gobry du service politique d'RMC.
Parce que depuis, il y a une accumulation, d'autres dysfonctionnements ont été découverts, glisse une députée macroniste. Fragilisée par le cambriolage contesté en interne, Laurence Descartes était sous pression. D'ailleurs, l'Élysée explique que le plus grand musée du monde a besoin d'apaisement et d'une nouvelle impulsion forte. Il ne restait pourtant que 6 mois avant la fin de son mandat, mais la présidente du Louvre estime que tenir la barre ne suffit pas, il faut aussi pouvoir avancer. Pas question pour autant d'endosser seule toutes les responsabilités. Dans un mail envoyé hier à ses collaborateurs, Laurence Descartes déplore l'absence de trajectoire claire et un manque de moyens. Manière de rappeler qu'elle a alerté à plusieurs reprises le ministère de la Culture et Emmanuel Macron sur l'état de vétusté du musée et ses failles de sécurité.
Cette démission et la situation au Louvre, c'est le symptôme d'un mal français, nous dira la voix de droite RMC ce matin. C'est Jérôme Lavrieux et c'est à 7h50 tout à l'heure.
La caisse d'épargne épinglée par la répression des fraudes. Les agences d'Île-de-France et du Grand Est sont écopées d'une amende de 9 millions d'euros, accusées d'avoir mis en place des frais bancaires injustifiés entre 2022 et 2025.
2 adolescents en garde à vue après l'agression d'un lycéen à Bron, près de Lyon.
Ouais, un jeune de 14 ans est soupçonné d'avoir poignardé il y a 2 jours un ado de 15 ans près d'un lycée. La victime a été transportée en urgence absolue à l'hôpital. Son état s'améliore. 2 mineurs donc ont été interpellés. Constance Bostoen du service police justice d'RMC. Le suspect s'est rendu de lui-même à la police.
Oui, ce jeune homme a été très rapidement identifié par les policiers qui, dans un premier temps, se sont rendus à son domicile sans l'y trouver. Il s'est finalement présenté de lui-même au commissariat de Villeurbanne hier. Pour se rendre, il a été placé en garde à vue. Selon les premiers éléments, c'est un jeune homme de 14 ans, très défavorablement connu des services de police. Lui et la victime ne sont pas scolarisés dans le même lycée, mais ils avaient un différend dont on ne connaît pas la nature, qui avait pris de l'ampleur sur les réseaux sociaux. Lundi après-midi, il s'était donc donné rendez-vous à proximité du lycée où est scolarisée la victime. L'adolescent avait alors sorti un couteau et donné des coups avant de prendre la fuite. Transporté lundi après-midi avec un pronostic vital engagé, le lycéen de 15 ans se trouve toujours dans un état grave selon le parquet de Lyon.
Et on part aux États-Unis à présent pour le discours sur l'état de l'Union cette nuit, en d'autres termes le grand oral de Donald Trump devant le Congrès.
Ouais, le président américain a une nouvelle fois évoqué l'Iran lors de son discours long d'1h45, un record.
Ils ont déjà développé des missiles qui peuvent menacer l'Europe et leurs bases militaires à l'étranger. Et ils travaillent sur des missiles qui pourront bientôt atteindre les États-Unis. Ils avaient été avertis de ne plus tenter à l'avenir de reconstituer leur programme d'armement, en particulier les armes nucléaires. Nous avons tout détruit et pourtant, ils veulent recommencer. Je préférerais résoudre ce problème grâce à la diplomatie, mais une chose est sûre, je ne laisserai jamais le plus grand sponsor du terrorisme au monde avoir l'arme nucléaire.
L'Iran dément et menace de riposter avec force à toute attaque américaine. Plus aucun département en vigilance rouge ce matin. La Charente-Maritime, la Charente, le Maine-et-Loire et la Loire-Atlantique sont toujours en orange. Près de 300 communes vont être reconnues en état de catastrophe naturelle après les inondations de ces dernières semaines dans l'ouest du pays. Cela concerne des villes situées dans le Lot-et-Garonne, le Maine-et-Loire et la Gironde, annonce Sébastien Lecornu sur X. 77 autres dossiers seront réexaminés début mars.
Et après 40 jours de pluie, le soleil et la douceur sont de retour.
Et oui, les températures s'envolent aujourd'hui avec près de 10 à 13 degrés au-dessus des normales de saison. Jusqu'à 24 degrés attendus aujourd'hui dans le sud-ouest, notamment à Biarritz. Et certains, hier, se sont jetés dans l'océan et c'est le cas de Madeleine.
Le soleil réchauffe et ça permet vraiment de se jeter à l'eau. D'abord, on n'a pas trop le choix parce que les vagues vous prennent d'office. Alors donc, on est obligé d'y aller. Et une fois qu'on est dans l'eau, notre corps se met vite à température et on est bien. C'est absolument anormal, mais ici, on a des temps comme ça qui nous surprennent. D'un seul coup, des 18 degrés, je sais pas, c'est le réchauffement climatique, comme partout. Mais on en profite, là. Hein. Ça, c'est agréable. Là, on en profite un maximum. Hein. Un maximum, c'est vrai. Donc voilà, on revit.
Objectif 8e de finale. Ce sera chaud aussi, ce soir, de la Ligue des Champions pour le PSG.
Ouais, les joueurs de Luis Enrique défient ce soir Monaco en barrage retour avec un but d'avance. Les Parisiens privés d'Ousmane Dembélé pourront compter sur le retour en forme de Désiré Doué, auteur d'un doublé à l'aller, Valentin Jamin.
Oui, ses deux buts ont marqué le match aller, mais sa célébration, les mains sur les oreilles, a aussi généré beaucoup de réactions, comme si Doué rejetait des critiques.
C'était personnel, je suis très concentré sur mon football. Tout le bruit autour, j'essaye de l'effacer de mon cerveau, de ma mémoire.
Ce geste intervenait en tout cas quelques jours après des propos du Ballon d'Or, Ousmane Dembélé qui demandait de jouer pour le club avant de penser à soi-même et aurait pu cibler notamment Doué, parfois individualiste.
Je me suis pas senti visé. Les leaders ont le droit de prendre la parole et doivent le faire à certains moments, parce que voilà, on est une équipe et un club qui a énormément d'ambition.
L'international français a donc répondu sur le terrain et a encore marqué ce week-end.
C'est uniquement dû au travail, à la discipline que je m'applique au quotidien. C'est en travaillant, en répétant les choses qu'on peut retrouver le chemin des filets. Et je pense que dans le travail, on construit aussi sa personnalité et son envie d'aller toujours plus loin et de se dépasser.
Son entraîneur Luis Enrique saluait son attitude ces derniers jours.
Il a été sensationnel, il a montré quel caractère, quelle personnalité comme joueur. Il est très bien, mais a une personnalité, un niveau spécial.
Il espère un nouveau but du joueur de 20 ans, car à chaque fois que Désiré Doué marque, le PSG gagne.
Coup d'envoi à 21h à suivre sur RMC. Le finaliste de la dernière Ligue des Champions, l'Inter, éliminé en barrage par la surprenante équipe de Bodo Glimt de Buzyn. Ça passe pour l'Atlético Madrid, Newcastle, le Bayer Leverkusen.
Merci beaucoup Clément Gouiz. C'était le journal de 7h à 7h08. On accueille Thierry qui nous appelle de Charente, La Rochefoucauld. Bonjour Thierry.
Bonjour monsieur.
Soyez le bienvenu mon cher Thierry. Vous gérez un site de e-commerce. Ah, c'est exactement. Intéressant dans le débat qu'on a aujourd'hui. Je l'entendais dans le Morning RMC avec Pascal de la Tour du Pin et Victor Pourchet qui est à ma droite. 76% des Français estiment que ne pas consommer français revient à financer l'économie étrangère. Cela dit, entre l'ambition et la réalité, est-ce que les clients achètent français chez vous, Thierry ?
Alors, chez moi, non, parce que les matières souvent viennent de l'étranger. Mmh. On n'a plus de fabricants en France, donc c'est dû. Et moi, je parlais surtout au niveau des...
De l'alimentaire ?
Ouais, d'alimentaire, ouais. Parce que nous, par exemple, on a fait le choix depuis plusieurs années d'acheter qu'en circuit court, donc des éleveurs locaux. Donc non seulement c'est meilleur, on sait d'où ça vient, mais en plus, paradoxalement, c'est que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins cher qu'en grande surface.
D'accord.
C'est le paradoxe.
D'accord, non mais c'est le paradoxe, il y a moins d'intermédiaires en même temps, ça a l'air paradoxal comme ça,
oui, non, mais
ce
non,
que
mais
vous dites et qui est important, c'est qu'en circuit court, on peut aussi faire de bonnes affaires, en plus de faire un geste qui est bon pour la planète, bon pour les agriculteurs, voilà. Près de chez nous.
Mais quand je dis que c'est le paradoxe, ça veut dire que souvent on a dans l'idée de dire, on va en grande surface parce que ça sera moins cher. Et puis finalement, on a pris cette habitude-là, alors que si on sort de la grande surface et qu'on va un petit peu autour de chez nous, alors vous allez me dire dans le centre de Paris, c'est pas évident, mais il y a des bouchers qui achètent en circuit court également et en viande française, et vous verrez que c'est bien meilleur et qu'à la sortie, on en mange moins et que ça revient beaucoup moins cher.
Merci Thierry. Je suis sûr que certains vont se reconnaître dans votre témoignage ce matin. D'autres vont nous appeler pour nous dire aussi la réalité des courses, la réalité du panier, que ce soit le caddie de supermarché ou le panier au marché. Merci Thierry. Trois quarts des Français qui estiment que ne pas consommer français revient à financer une économie étrangère. Vous êtes attaché au local, au circuit court. Encore faut-il pouvoir se le permettre. Mais Thierry a un superbe contre-exemple ce matin. Merci Thierry. Il est 7h10 sur RMC.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Notre consommation, on en parle ce matin, puisque Limoges, Angers, Dijon, Grenoble et Reims accueillent 5 nouvelles boutiques Shein en dur. Dans les BHV, ça fait réagir sur le WhatsApp RMC Victor.
Oui, au 06 12 424 424, on a Fred qui nous dit qu'il est grand temps de sensibiliser le consommateur sur son rôle primordial. C'est lui qui choisit, il a autant de responsabilités que les autres acteurs. Et puis on a Momo qui répond et qui est assez franc. Je me fiche que certaines entreprises françaises ferment, c'est toujours à nous, sous-entendu les clients, de faire des efforts. André nous demande, acheter français, moi je veux bien, mais avec 450 euros de retraite, il va falloir expliquer comment je dois faire. Et puis sinon, on a aussi Christian qui nous dit « Trop cher les produits français ?» Il nous pose la question. Et bien alors, achetez moins haut de gamme et surtout, soyez patriotes. Vous continuez à réagir sur le WhatsApp de l'émission.
Avec la carte bleue, le patriotisme. Vous vous rappelez de la phrase « Nos emplois sont nos emplois ». Bah tiens, on va passer de la consommation à l'emploi justement, puisque syndicats et patronats doivent se mettre d'accord aujourd'hui sur de nouvelles règles de l'assurance chômage à partir d'aujourd'hui. Au cœur des discussions, les ruptures conventionnelles. Trop d'abus selon le gouvernement qui exige des économies. Bonjour Denis Gravouille.
Bonjour.
Vous êtes le numéro 2 de la CGT et pour vous, les patrons en profitent pour mettre en avant le pire de leurs propositions. C'est votre parti pris dans un instant sur RMC.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Mathieu Béliard.
Il est 7h13, vous êtes sur RMC et RMC Story. Un excellent réveil à toutes et à tous. 515 000 ruptures conventionnelles signées en 2024. Année où l'UNEDIC a versé 9 milliards d'allocations chômage pour ses salariés en rupture co, comme on dit. C'est un quart du total versé. C'est trop coûteux en tout cas pour le gouvernement qui exige au moins 400 millions d'euros d'économies par an. Patronat et syndicats se réunissent aujourd'hui afin de conclure ces négos sur l'assurance chômage. Bonjour Denis Gravouille.
Bonjour.
Vous êtes secrétaire confédéral de la CGT et le patronat a fait des propositions qu'on va détailler hier. Mais mieux que les 400 millions d'euros, ils avancent 1 milliard d'économies si on écoute MEDEF, CPME et UDP. Vous estimez qu'on se retrouve avec les pires demandes du patronat, c'est votre parti pris. Mais alors d'abord, est-ce que vous êtes d'accord avec le constat du gouvernement ? Trop de ruptures conventionnelles, ça coûte trop cher, le système est dévoyé.
Et non, parce que les ruptures conventionnelles, il faudrait faire le bilan des ruptures conventionnelles. C'était demandé par le patronat en 2008 pour s'éviter des prud'hommes, en gros, pour s'éviter des licenciements contestés aux prud'hommes. Bon, donc le deal, c'était que après une rupture conventionnelle, on a la même indemnisation qu'après un licenciement. Et maintenant, on voudrait réduire cette indemnisation, alors que nous, on sait que de nombreuses ruptures conventionnelles sont imposées à des salariés. On a des permanences où des gens nous disent, bah oui, mon patron veut me mettre dehors, mais il me propose une rupture conventionnelle pour qu'il y ait pas de prud'homme. Donc c'est ça, c'est qui est dangereux. Donc forcément, les droits à assurance chômage, ça doit être les mêmes, et nous, on veut pas de baisse. Mais les 400 millions d'euros d'économie, on va les trouver, mais en demandant aux patrons qui ont voulu les ruptures de payer, d'augmenter les cotisations, notamment pour les très grosses boîtes qui n'arrêtent pas d'utiliser des ruptures conventionnelles.
Je vais en venir à vos propositions, mais alors vous parlez de patrons qui abusent du système de rupture conventionnelle en pressant leurs salariés à les accepter. Si je vous suis bien, le ministre du Travail, Jean-Pierre Farandou, parle lui de personnes qui profitent d'être au chômage pour passer un an tranquille. Est-ce qu'on n'a pas là un cadre où le salarié et son patron finalement se rincent tous les deux sur le dos de l'assurance chômage?
Mais il n'y a pas d'études qui montrent que les gens se profitent du chômage pour rester au chômage et autres. C'est faux. Au contraire, plus on réduit les droits d'assurance chômage, plus on oblige les gens à aller sur des emplois précaires. Un cadre qui va avoir un raccourcissement de son chômage, il va aller prendre un emploi à quelqu'un d'autre pour moins qualifié. Ça a déjà été prouvé par différentes études. Ce n'est pas en baissant les droits au chômage qu'on crée de l'emploi. La vérité, c'est que le temps de chômage, ça permet de se former, de rebondir sur un emploi plus qualifié. Donc, Donc c'est un récit qui a été inventé. On avait eu le droit à une étude sur les comportements abusifs à Pôle emploi, à France Travail. Ils savent même pas nous expliquer ce que c'est. Donc la vérité.
Mais c'est-à-dire, pardonnez-moi, je signe une rupture conventionnelle demain, j'en profite pour partir un an en vacances, etc.
Mais non,
ça existe. Vous dites c'est ultra minoritaire,
c'est de la fraude.
Ou pas chiffré,
partir un an en vacances sans le signaler à France Travail, c'est de la fraude. Vous pouvez déjà être sanctionné. Donc ça existe pas.
Rupture ou pas rupture.
La vérité des droits assurance chômage, c'est 1048 euros la moyenne. Donc celui qui part aux Bahamas avec 1048 euros alors qu'il avait un salaire supérieur, ça existe pas. C'est un mythe qui a été inventé pour taper sur les droits des chômeurs. Et donc évidemment qu'il faut revenir là-dessus. Quand on est au chômage, on est plutôt dans le stress de retrouver du boulot.
Alors je reviens à votre parti pris, les pires demandes du patronat. Quelles sont ces demandes? On les détaille. Post-rupture conventionnelle, réduire la durée d'indemnisation à 15 mois contre, je parle sous votre contrôle, 18 aujourd'hui.
Oui, c'est ça, qui a déjà été réduit de 24 à 18. Oui.
Et 20,5 contre 22,5 pour les plus de 55 ans.
C'est ça. Oui, et puis une dégressivité au septième mois, en fait, une pression sur les personnes qui se retrouvent au chômage.
La avec
pression
du chômage au-delà de 2000 euros brut.
Non, mais vous connaissez, vous avez vu, je suis venu souvent ici avec des réformes d'assurance chômage tous les ans, et on nous a dit il faut baisser les droits des chômeurs parce que le chômage baisse. Là, le chômage remonte et il faut encore baisser les droits des chômeurs. C'est évidemment très difficile en ce moment de retrouver du boulot, et on a près de 7,5 millions de personnes sur un site à France Travail. Donc c'est pas en baissant les droits des chômeurs qu'on va les aider à retrouver du boulot. On va plutôt se retrouver avec des gens qui vont se retrouver en fin de droit plus tôt et on va augmenter la pauvreté comme ça a été prouvé par les études de l'INSEE.
Admettons que c'est pas en baissant les aides des chômeurs qu'on va les aider à retrouver du boulot. Ouais. Est-ce que c'est en taxant les patrons un peu plus qu'on va les aider à embaucher?
Eh bien, oui, il faut regarder parce que du côté, on sait que par exemple les petites entreprises qui n'ont pas de service RH utilisent beaucoup les ruptures conventionnelles. À la rigueur, on peut les comprendre, mais on a des grosses boîtes qui ont accéléré des sorties sous forme de rupture conventionnelle pour s'éviter les licenciements. Donc là, nous, on a une idée de demander aux grosses boîtes qui font des profits énormes, des dividendes considérables, de se dire, bah, vous allez contribuer sur les ruptures conventionnelles.
Mais vous n'êtes pas d'accord avec ce que je disais tout à l'heure, cette idée que peut-être que, pour une fois, le patron et le salarié sont main dans la main pour se rincer sur le dos de l'assurance chômage?
Ben non, parce que les ruptures conventionnelles, la plupart du temps, c'est imposé par le patron aux salariés.
Et c'est ce que dit Marie-Laure ce matin, ça devrait vous plaire, je crois. J'ai lu que la première ligne. Bonjour Marie-Laure.
Oui, bonjour.
Vous êtes à Tours en Indre-et-Loire, au chômage aujourd'hui, je crois.
Oui, c'est ça.
D'accord.
Donc, moi,
depuis combien de temps, Marie-Laure?
Bah, là, depuis le mois d'octobre.
D'accord.
Donc rapidement, le mois de juin, 18 juin exactement, nous avons été rachetés par une boîte concurrente qui pratique en fait du salarial à Marrakech. Donc du coup, notre boîte, nous, finalement, ils étaient intéressés par nous que pour récupérer nos clients, pas pour les salariés. Mmh. Et au bout de 10 jours, après ce charmant mail où on nous a dit qu'on était rachetés, on nous a convoqués. Et au bout de 10 jours, on nous a proposé une rupture conventionnelle. J'ai 19 ans de boîte, j'étais la responsable RH de la société. Donc je leur ai bien signalé que c'était anormal, que normalement ils devraient nous proposer un plan de licenciement économique, qui reste quand même bien plus avantageux qu'une rupture conventionnelle, parce que n'oublions pas que c'est 18 mois, et aujourd'hui le marché du travail c'est quand même très compliqué.
Et qu'est-ce qui vous pousse à l'accepter, Marie-Laure?
Qu'est-ce qui me pousse à l'accepter? Alors mes collègues l'ont fait, parce que bah ils ont mis pression sur eux, et moi ils m'ont mis au placard. Moi ils m'ont mis devant un ordinateur, sur une chaise, sans plus rien faire. Alors oui, j'aurais pu aller les attaquer au prud'homme parce que j'acceptais pas la rupture. Non, mais on s'en sort pas, en fait. Bah, en fait, au bout de 4 mois, voilà, j'ai eu un mois d'arrêt, bah, un peu pour dépression parce que voilà, mon médecin, il m'a dit, bon, bah, faut lâcher l'affaire. Et j'ai accepté de partir avec contrepartie supplémentaire. Parce qu'à un moment donné, il faut pas abuser, quoi. Mmh. Et moi, je comprends pas que les ruptures conventionnelles aillent devant l'inspection du travail, quand même, parce que ce sont des démarches qui sont validées par l'inspection du travail. On les a appelées. On leur a signalé qu'il y avait un problème, qu'on devrait avoir un plan de licenciement éco. Ils nous ont laissé tomber.
Ok. Non mais merci Marie-Laure, merci de votre témoignage. Pour le coup, il est très clair, il est exactement dans
les témoignages comme Marie-Laure. On en a des dizaines comme ça de gens qui sont poussés vers la rupture conventionnelle parce que des employeurs veulent s'économiser des licenciements économiques. C'est ça la raison. Et donc du coup, ce qui est en train de se faire.
Ce que je veux dire, c'est que le salarié peut y voir un avantage, y compris les collègues de Marie-Laure, de se dire je vais pas rentrer dans 2-3 ans de procédure qui sont plafonnées désormais aussi.
Exactement. Mais sauf que du coup, la rupture conventionnelle, là, ce qui est déjà en train de se produire, c'est qu'on veut leur réduire les droits assurance chômage après la rupture conventionnelle. On n'est pas en train de remettre en cause le patron là, qui a racheté la boîte de Marie-Laure. C'est là qu'il faudrait les regarder, c'est l'usage des ruptures conventionnelles. Mais là, on est en train de nous dire, on va baisser les droits des salariés, c'est à double peine. Vous perdez votre boulot, comme le cas de Marie-Laure, et en plus, vous aurez des droits moins dans l'assurance chômage.
Bah, on verra ce qui ressort de la négociation.
Ça, c'est pas la faire rupture conventionnelle
du patronat, MEDEF, CPME et UDP. Il y a votre réponse ce matin, la CGT, les autres syndicats, vous vous réunissez pour négocier sur l'assurance chômage à partir d'aujourd'hui. Je rappelle que si vous ne vous mettez pas d'accord, c'est le gouvernement qui reprend la main. Je suis pas sûr que ça vous réjouisse pour autant.
Non, mais on va continuer à batailler parce qu'on va défendre Marie-Laure et tous ses collègues.
Merci Denis Gravouille, numéro 2 de la CGT ce matin en direct sur RMC. Il est 7h21.
RMC. Merci. Apolline Matin.
Et merci Marie-Laure, quand même, qui nous appelait de Tours avec son témoignage. J'y tiens. Dans un instant, on va remonter l'histoire avec vous, Arthur Chevalier. Bonjour Arthur.
Bonjour Mathieu.
Arthur, la ministre déléguée à l'égalité femmes-hommes, Aurore Berger, a déclaré que la France Insoumise était un parti, je cite, anti-France. Arthur, c'est une expression qui est loin d'être anodine.
Eh oui, une expression vieille de plus d'un siècle et qui nous ramène aux pages les plus sordides de l'histoire de France.
Mathieu. Ne bougez pas, on se retrouve dans 30 secondes sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
7h22 sur RMC et RMC Story. Quel plaisir de retrouver notre historien du matin, Arthur Chevalier. Bonjour Arthur.
Bonjour Mathieu.
Polémique après des propos d'Aurore Berger, la ministre chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations. Elle a déclaré dimanche dernier, à propos de la France Insoumise, que c'était, je cite, un parti anti-France.
Et oui, des propos que la ministre a d'ailleurs maintenus hein, avant-hier sur BFM. Et ces propos ont provoqué de vives réactions côté France Insoumise. Le coordinateur du parti, Manuel Bompard, a notamment parlé, je cite, d'une honte et d'une fascisation du camp macroniste. Ça y va fort. Hein.
Carrément. Manuel Bompard qui est l'invité du face-à-face à 8h30 avec Marie Chantré. Pourquoi cette expression fait autant polémique?
Il faut bien admettre, Mathieu, que historiquement, c'est pas une expression anodine. Hein, l'anti-France, c'est à la fois une expression et un concept d'extrême droite. Ça date de la fin du 19e siècle et le premier à l'avoir employé et théorisé, c'est un homme qui s'appelle Charles Maurras.
Et on va rappeler avec vous qui était Charles Maurras.
Alors Charles Maurras, c'était une sorte de philosophe, d'écrivain du 19e et du 20e siècle. Il était à la fois nationaliste, royaliste et antisémite. C'est aussi le fondateur d'une organisation d'extrême droite qui s'appelle l'Action française, une association qui existe encore aujourd'hui. Et une des obsessions de Charles Maurras, c'était d'identifier les ennemis de la France, alors pas seulement ceux de l'extérieur, hein, aussi ceux de l'intérieur, hein, c'est-à-dire pour lui les mauvais Français. Et ses ennemis se répartissaient en quatre groupes. Alors d'abord il y avait les Juifs, ensuite les francs-maçons, ensuite les protestants et enfin les métèques. Un métèque, ça désigne en gros un étranger qui vit dans un pays d'accueil.
Alors à l'origine, qu'est-ce que ça signifiait l'anti-France?
Alors ça voulait dire que d'après eux, hein, il y avait au sein même du pays des gens qui voulaient sa destruction, hein, et ces gens seraient particulièrement dangereux justement parce qu'ils vivent en France, qu'ils ont l'air d'être français et que parfois même d'ailleurs ils sont français. D'après cette théorie toujours, ce sont donc des ennemis de l'intérieur. Par exemple, en cas de guerre, ils pourraient se retourner contre des Français.
Et ces idées, elles vont se répandre au sein de la société, Arthur?
Bon, alors honnêtement, c'était assez marginal. Ça ne sortait pas du cadre de l'extrême droite et des milieux ultranationalistes. Sauf que, en 1940, pour la première fois de notre histoire, l'extrême droite va prendre le pouvoir. Un gouvernement qui va collaborer avec les nazis, avec à sa tête le maréchal Pétain. Et ce gouvernement va aussi mener une politique antisémite. Il va persécuter les francs-maçons et bien sûr les étrangers. Tout ce petit monde sera désigné avec un terme commun. L'anti-France, Mathieu, c'était évidemment une organisation raciste de la société.
Alors après, est-ce qu'on va encore utiliser cette expression?
Bon, en gros, non, hein, c'était quand même très connoté. Un des seuls hommes politiques de premier plan à remettre l'expression au goût du jour, c'était forcément Jean-Marie Le Pen. Hein. En 2013, il avait accusé Christiane Taubira, qui était à l'époque ministre de la Justice de François Hollande, d'être anti-française. Plus récemment, la France Insoumise avait déjà été désignée comme l'anti-France. C'était en 2024, après les JO, Prisca Thévenot, la porte-parole du gouvernement, avait déclaré que LFI aurait mérité, je cite, la médaille de l'anti-France.
Arthur Chevalier, l'historien d'Apolline Matin, vous voulez réécouter la chronique d'Arthur ou les autres des autres jours, allez-y, franchement, bien vous vous rendez directement sur l'application RMC. Merci Arthur.
Merci.
Toute cette semaine, dans Apolline Matin, on vous offre des vacances à la mer, des vacances à la montagne, un séjour d'une valeur de 2000 euros dans les clubs et hôtels Bellambra, le spécialiste des clubs de vacances pour les familles en France. En fait, vous aurez le choix, je vous le dis simplement, entre 45 destinations, je vous les liste pas toutes, les plus beaux endroits de France ou Bellambra surtout va s'occuper des activités, des repas, mais comme c'est le tout compris premium, il s'occupe aussi de vos gamins.
Ah,
disons-le, c'est un petit plus dans les vacances dans les vacances. Alors pour remporter ces vacances Bellambra, envoyez maintenant, c'est maintenant que ça se passe, vacances au 732-16, vacances au pluriel, par SMS au 732-16.
Gagnez vos vacances dans Apolline Matin sur RMC avec Bellambra. Bellambra Club, numéro 1 des clubs de vacances en France.
75 centimes par SMS, 3 SMS maxi.
Et dans un instant, la météo, le journal de 7h30. Et juste après le journal, mon invité, c'est Maître Fabien Rajon, l'avocat de la famille de Quentin Derenque, une famille qui condamne les récupérations politiques de la marche en hommage à leur fils samedi dernier. Vous restez bien sur RMC. Il est 7h30 sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Très bon réveil à tous, c'est l'heure du journal avec Élise Dangean. Bonjour Élise.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Un témoignage RMC dès le début de ce journal, celui d'un militant de gauche récemment agressé par des membres présumés du bloc montpelliérain, ce groupuscule d'ultra-droite visé par une procédure de dissolution. Shein débarque ce matin dans 5 nouvelles villes françaises et la marque d'ultra-fast fashion va tenter de se refaire après l'échec commercial qu'elle essuie à Paris. Et puis un sélectionneur étranger pour diriger les Bleus du Hand, c'est inédit, la légende talente Doutchebeyev va remplacer c'est Guillaume Gilles.
Trois membres présumés d'un groupe d'ultra-droite placés en garde à vue hier à Montpellier.
Ils feraient partie du bloc montpelliérain dont on vous parlait hier matin sur RMC, un groupe visé par une procédure de dissolution par le ministère de l'Intérieur. Ces trois hommes sont soupçonnés d'avoir participé à l'agression de plusieurs clients d'un bar associatif d'Alès en mai dernier. L'un d'eux témoigne ce matin au micro RMC de Pierre Bazin et Cassandre Brault.
Jean se remémore cette soirée qui avait pourtant bien commencé. Pendant les férias d'Alès, il est bénévole dans un bar associatif fréquenté par des militants de gauche. Mais en fin de soirée, une dizaine d'individus vêtus de noir font irruption dans le bar.
Et là, j'ai vu qu'ils commençaient un peu à monter en pression. Et en fait, il y a un mec qui était derrière qui a assiné un coup de poing à mon pote. Et derrière, là, c'est parti. Ça a été une avalanche de coups. Moi, ils se sont mis à trois sur moi. Coup de patate dans la tête et derrière j'ai fini au sol. Il voulait vraiment me terminer à coups de talon dans la tête, au sol quoi.
Pour Jean, aucun doute, il vient de se faire agresser par des militants d'extrême droite qu'il reconnaît à leur tatouage néo-nazi. Des militants déjà auteurs de provocations quelques jours avant cette bagarre, selon lui. Une scène extrêmement violente qui lui vaut plusieurs jours d'ITT. Alors quand le cheminot découvre les vidéos de l'agression de Quentin à Lyon, il est particulièrement touché.
6 mois avant, c'était moi. Voilà. La difficulté, c'est de se rendre compte qu'en fait, on a des dissolutions de groupe qui se passe d'extrême droite, mais qu'en fait finalement ça sert à rien parce que quelque part en fait ils refont un sous-groupe derrière.
Les trois hommes placés en garde à vue contestent leur participation aux faits de violence et nient également appartenir au bloc montpelliérain.
Achraf Hakimi, renvoyé en procès pour viol à la demande de la juge d'instruction qui met notamment en avant la cohérence de la victime présumée. Dans l'ordonnance de mise en accusation qu'RMC a pu consulter, elle balaye notamment la thèse d'une tentative d'extorsion avancée par la défense du joueur du PSG. Le Marocain a annoncé faire appel de cette décision pour tenter d'éviter le procès. Il est 7h32 et c'est le grand jour pour Shein qui s'installe dans 5 villes françaises. 3 mois après Paris, la marque d'Ultra Fast Fashion prend ses quartiers dans les boutiques BHV de Limoges, Angers, Dijon, Grenoble et Reims. Ouverture prévue à 10h. Et le géant chinois espère se refaire une santé car son expérience parisienne est pour le moins décevante, Inès Zegloul.
Nous apprenons encore à connaître notre clientèle, confesse la direction du BHV. Contactée par RMC, elle dresse un bilan contrasté. L'admet à demi-mot, la première collection Shein n'était pas un franc succès, mais nous avons multiplié par 6 le nombre de clients qui achètent. 40 euros en moyenne dépensés à la caisse, plaide le grand magasin, 300 000 visiteurs sur le premier mois d'ouverture. Mais depuis, eh bien, les rayons sont désertés, assure une représentante de l'intersyndicale du BHV parisien.
Les caisses ne sont pas débordées, il y a beaucoup de déceptions en fait. On fait tous un peu le deuil de notre magasin d'avant. Notre clientèle nous a boycottés et on l'a en grande partie perdu. Quoi.
Boycott de la clientèle et puis boycott de certaines enseignes. Une centaine de marques qui ont quitté les locaux historiques. Alors Shein, Paris perdant pour le BHV. Le patron Frédéric Merlin l'assure dans les colonnes du Figaro. Si ça ne marche pas dans un an, on arrêtera, dit-il.
Alors vous habitez dans ces villes, Limoges, Angers, Reims, dites-nous ce matin au 32-16, est-ce que c'est une bonne nouvelle l'arrivée de Shein? Vous êtes peut-être commerçant dans le prêt-à-porter, là c'est une moins bonne nouvelle, on vous attend ce matin au 32-16.
1h47, c'est la durée du discours sur l'état de l'Union prononcé cette nuit par Donald Trump, un record dans lequel le président américain a notamment mis en garde l'Iran, qui selon lui développe des missiles qui pourront bientôt atteindre les États-Unis. Le président américain qui précise tout de même qu'à ce stade, il privilégie la voie diplomatique avec Téhéran. Il est 7h34 et il n'y a plus aucun département en alerte rouge au cru ce matin. 294 communes bénéficient désormais du régime de catastrophe naturelle. C'est le Premier ministre Sébastien Lecornu qui l'a annoncé hier soir. Un classement décisif pour les sinistrés, explique Olivier Moustakakis, cofondateur d'Assureland.
Ça enclenche le processus d'indemnisation. Donc, toutes les personnes qui ont été touchées par les inondations dans les communes qui ont été déclarées catastrophes naturelles seront sûres d'être indemnisées. Ça, c'est une bonne chose. Et ensuite, ça permet d'accélérer l'indemnisation. Dans le régime catastrophe naturelle, l'assureur, à partir du moment où il reçoit le rapport d'expertise, il a 21 jours pour verser le montant de l'indemnisation ou un mois pour faire intervenir une entreprise. Donc, c'est raccourci par rapport au schéma classique d'indemnisation.
Il est 7h35 et c'est une petite révolution dans le monde du handball français. Trois semaines après l'échec de l'Euro 2026, les Bleus viennent de perdre leur sélectionneur Guillaume Gilles, qui a démissionné et qui sera remplacé, c'est une première dans leur histoire récente, par un étranger, la légende du hand, Talant Doutchebaïev. Un changement radical pour l'équipe de France, Nicolas Paolorsi.
Oui, et ce sont les derniers résultats qui ont guidé cette réflexion. L'échec des Jeux Olympiques de Paris avec une défaite en quart de finale et un dernier euro très loin des attentes. La France veut retrouver les sommets, le président de la fédération Philippe Bana.
On veut être là en 2027, en 2028. Le mondial 2029 est chez nous. 6 mois après les Jeux Olympiques, comment on peut gagner tout ça? On a fait 50 noms les uns derrière les autres. On y a passé des nuits entières. Ce numéro 1, c'est Talant Doutchebaïev.
Un entraîneur étranger à la tête des Bleus, un choix nécessaire pour l'ancien capitaine de l'équipe de France, Valentin Porte.
Je comprends que ça fasse grincer des dents. On est français, on est fiers, on a gagné beaucoup. Sauf que voilà, les temps changent. Aujourd'hui, on a vu qu'on avait besoin de changement. Et Doutchebaïev, je pense que c'est dur de faire plus charismatique dans le milieu du handball.
Doutchebaïev, c'est un palmarès hors norme. Ancien meilleur joueur du monde et 4 fois vainqueur de la Ligue des Champions comme entraîneur. Vincent Gérard, ancien gardien de but des Bleus.
Son expérience des matchs de très haut niveau, à la fois en tant que joueur, mais aussi en tant qu'entraîneur, va faire énormément.
Pour retrouver le goût de la victoire, le handball français a fait sa révolution. Choisir un sélectionneur étranger, du jamais vu pour le sport collectif le plus titré de France.
En football, le PSG va tenter de valider son billet pour les 8e de finale de la Ligue des Champions face à Monaco ce soir. Autre affiche, le match retour Real Madrid-Benfica. Après une première rencontre plutôt houleuse et marquée par des accusations de racisme, rendez-vous à 21h ce soir sur RMC.
Et puis les courses aujourd'hui, c'était à l'hippodrome de Vincennes.
Rendez-vous à 13h55 et voici le prono de la Dream Team des courses RMC. Le favori aujourd'hui, c'est l'As Jobspot. L'outsider, c'est le numéro 5, Graziella Dell.
Merci beaucoup Élise Dangean, c'était le journal. On est avec Caroline à présent, en direct d'Isère au 32-16. Bonjour Caroline.
Bonjour toute l'équipe.
Comment ça va Caroline?
Ça va super bien, je suis très contente d'intervenir parce que je vous écoute tous les matins. Donc j'ai l'impression d'être avec une bande de copains.
Franchement Caroline, ça s'entend et ça fait plaisir à entendre ce sourire dans votre coup de fil. Caroline, vous êtes en Isère, du coup est-ce que vous êtes intéressée par le Chine de Grenoble?
Alors le Chine de Grenoble... Non, pas particulièrement, parce que je ne vous cache pas que quand je passe des commandes, c'est plutôt via Internet.
Oui, parce que, mais aujourd'hui, ça devient une boutique en dur dans 5 BHV de région, après celle de Paris qui avait fait beaucoup de polémiques.
Oui, oui, c'est ça.
Du coup, vous ne serez pas cliente de Chine au BHV de Grenoble?
Peut-être que j'y passerai, puisque je reste quand même cliente sur le site Internet. Mais ce que je déplore quand même, c'est qu'on n'est pas capable en France d'acheter français, clairement.
Oui, mais alors Caroline, vous avez une immense honnêteté ce matin de dire voilà, j'achète chez Shein et je déplore qu'on n'achète pas français. Évidemment, le prix, Caroline.
Bien sûr, une question de prix. Pourquoi je vais aller payer un chemisier sur Shein qui va me coûter 10 euros alors que dans une boutique, je vais le payer 40? Et le pire du pire, c'est que c'est même pas fabriqué en France. Ça reste fabriqué en Chine.
Oui, ça c'est un argument qui revient souvent, Caroline. Et vous avez raison de le souligner. Beaucoup vont nous dire, si j'achète pas chez Shein, je vais acheter dans d'autres enseignes et ce sera quand même fabriqué à l'étranger. Ce sera quand même, on est passé de fast fashion à ultra fast fashion. Vous dites, c'est pas forcément plus vertueux.
C'est ça, exactement.
Merci Caroline. Merci beaucoup de votre coup de fil. Si vous y passez un de ces quatre, BHV de Grenoble où il y aura une boutique Shein, vous nous rappelez, vous nous racontez un petit peu l'expérience puisque vous êtes cliente en ligne. Et peut-être un jour cliente en dur. Merci beaucoup Caroline. En direct d'Isère ce matin au 32-16. Il est 7h39.
RMC jusqu'à 9h. Apolline Matin.
C'est à la une ce matin et c'est dans vos messages sur le WhatsApp RMC au 06 12 424 424. Victor, on parle des ruptures conventionnelles.
Et cette proposition du patronat au syndicat, à savoir réduire la durée maximale de chômage après une rupture conventionnelle et d'un autre côté, une baisse drastique des indemnisations au bout de 6 mois. On a d'abord Christophe qui nous dit que les TPE doivent absolument avoir plus de flexibilité avec leurs salariés. Et justement, on a plusieurs témoignages qui vont dans ce sens. D'abord Pascal. J'ai été confronté à un problème, des salariés qui demandent une rupture conventionnelle, l'entreprise qui refuse et ces mêmes employés qui se mettent en long arrêt maladie pour mettre la pression à leur employeur. Et puis on a l'autre côté également sur le WhatsApp, on a Magali qui nous dit j'ai eu 2 ans d'arrêt maladie, ma direction m'a proposé une rupture conventionnelle soi-disant parce qu'ils étaient mieux organisés sans moi, en fait c'était parce qu'ils étaient en grande difficulté financière et si je n'avais pas refusé j'aurais raté tous les avantages dus à un licenciement économique. Vous continuez à réagir sur le WhatsApp de l'émission 0612 424 424.
Merci Victor. Les obsèques de Quentin Derenck se sont tenues hier à Lyon, dans l'intimité familiale bien entendu. Ses parents dénoncent la récupération politique de la mort de leur fils et on a beaucoup parlé de cette mort dans le débat des candidats aux municipales à Lyon hier soir. Bonjour Maître Fabien Rajon.
Bonjour.
Vous êtes avocat des parents de Quentin Derenck. On se retrouve dans une minute sur RMC et RMC Story.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Mathieu Béliard.
Il est 7h42 sur RMC et RMC Story. Très bon réveil à toutes et à tous. Les obsèques de Quentin Derenck se tenaient à Lyon hier, dans l'intimité familiale. Une parenthèse peut-être, alors que les parents de Quentin Derenck n'ont de cesse d'appeler à cesser la récupération de la mort de leur fils. Et on en parle ce matin avec Maître Fabien Rajon, avocat de la famille de Quentin Derenck. Bonjour Maître.
Bonjour.
Et merci d'être en direct avec nous ce matin. Hasard du calendrier, c'est aussi hier que se tenait le grand débat des municipales à Lyon sur BFM TV. Et il a beaucoup été question du fils de vos clients, évidemment. Le maire sortant, candidat à sa réélection, Grégory Doucet, est revenu sur l'échange qu'il a eu avec le père de Quentin Derenck.
Quand j'ai appelé le père de Quentin Derenck, d'abord pour lui présenter mes condoléances, on a évoqué la situation, le deuil que la famille était en train de traverser. Et il m'a confié que les récupérations politiques qui étaient faites de cette tragédie étaient une souffrance supplémentaire pour lui et sa famille.
Alors on utilise le mot, mais qui récupère aujourd'hui Fabien Rajon ?
Bonjour et merci pour votre invitation. Moi, je suis assez surpris de ces déclarations de Monsieur le maire de Lyon qui fait état d'une conversation privée et confidentielle avec le papa de Quentin. Premier point. Second point, effectivement, suite à la marche qui a été organisée samedi, nous souhaitons dire d'une manière très claire que la mémoire de Quentin, elle n'appartient pas à des groupuscules extrémistes, mais qu'elle appartient bel et bien à tous les Français. Vous avez noté que la famille de Quentin n'était pas présente à cette marche organisée samedi.
Et elle l'avait annoncé auparavant.
Oui, elle avait pris la peine effectivement de l'annoncer. Alors, elle n'avait rien a priori contre l'idée d'un hommage, à la condition qu'il fût digne et respectueux. Et d'ailleurs, on tient à remercier les personnes qui sont venues dans une démarche, je dirais, sincère, digne.
Oui, mais Fabien Rajon, d'ailleurs, on l'a répété, vos clients ont aussi dénoncé les débordements racistes, homophobes qu'on a pu observer ce jour-là. Juste d'un mot, pardon. Reviens sur ce que vous disiez au début, Fabien Rajon, la conversation avec Grégory Doucet, elle a bien eu lieu.
Ils l'ont fait fermement. Ils ont dénoncé très fermement la récupération politique, la présence de certains extrémistes notoires lors de cette marche, et également les quelques débordements racistes inacceptables que nous avons pu constater. Et ils l'ont fait avec beaucoup de fermeté, vous avez tout à fait raison.
Et vous avez évoqué Grégory Doucet, cette conversation elle a bien eu lieu avec le père de Quentin Derenck.
Je n'ai pas à vous dire si elle a eu lieu ou pas, en tout état de cause, si elle a eu lieu, elle était nécessairement confidentielle, et je m'étonne qu'elle ait pu être relayée dans le cadre d'un débat à quelques semaines des élections.
Vous étonnez ou entre hier soir et ce matin, les parents vous ont dit qu'est-ce qu'il fait là ?
Non, je n'ai pas d'informations à vous donner, simplement je l'apprends par votre antenne à l'instant, et je trouve ça plutôt regrettable.
Aujourd'hui, le gouvernement semble intensifier sa lutte contre les groupes ultra et violents. Trois membres d'un groupe d'ultra-droite de Montpellier sont en garde à vue d'ailleurs, mais d'ultra-droite comme d'ultra-gauche, cette prise de conscience, ça va dans le bon sens ?
Ah, je dirais oui, effectivement. D'une manière générale, ça va plutôt dans le bon sens. Moi, j'interviens pour la défense de la famille de Quentin qui est déterminée sur deux choses. La première chose, c'est que les meurtriers de Quentin soit condamné sévèrement par l'institution judiciaire. La deuxième chose qui tient à cœur de cette famille tragiquement endeuillée, c'est de faire en sorte que la mémoire de Quentin elle ne soit pas salie, que la réputation de cette famille ne soit pas salie. Ils vivent une épreuve qui est terrible, qui est tragique. Ils sont endeuillés et en plus du deuil, on vient salir la mémoire de leur enfant, raison pour laquelle lorsqu'il y aura des atteintes à la mémoire et il y en a eu déjà des atteintes à la mémoire de Quentin, je déposerai plainte pour apologie de crime, délit dont je rappelle qu'il est puni de 5 ans d'emprisonnement.
Pour apologie de crime, le parquet de Paris vient d'ouvrir une enquête pour une possible reconstitution de la jeune garde, reconstitution de ligue dissoute pour l'organisation violente d'ultra-gauche, à laquelle Jean-Luc Mélenchon redit son soutien. Vous me direz si c'est aussi de la récupération. Hier soir, dans le débat lyonnais, le candidat RN Alexandre Dupallet affirme que la candidate LFI a une part de responsabilité dans la mort de Quentin Derenck. Là, je sais qu'on est encore un peu sur le volet politique. C'est ce que pensent vos clients aussi ?
Mes clients sont très prudents sur ces sujets politiques. Très clairement, la priorité de la famille de Quentin n'est pas une priorité politique. Notre chemin, c'est celui du droit, pas celui de la polémique. S'agissant de la responsabilité de l'EFI, je dirais que la question, elle peut se poser légitimement au plan moral. Et que si les éléments devaient accréditer, par exemple, une complicité, je dis bien en théorie, nous en tirerons des conséquences au plan judiciaire. À mon sens, aujourd'hui, c'est prématuré.
Et vous restez sur le plan judiciaire, et c'est votre rôle, évidemment, et c'est sans doute le plus difficile dans les débats qu'on peut avoir ces derniers jours. Ce qui vous intéresse, c'est bien la question judiciaire. Vous avez déposé plainte pour meurtre en bande organisée, et vous-même, Fabien Rajon, vous fustigez la thèse de la RICS. Alors, même si on a vu des affrontements vraisemblablement préparés dans les deux camps, vous parlez de lynchage. Pardonnez-moi, mais RICS et lynchage, est-ce que les deux termes sont forcément incompatibles?
Alors effectivement, nous avons déposé plainte pour meurtre en bande organisée. Je rappelle qu'à l'origine, la qualification qui était retenue par le parquet, c'était une qualification de violence aggravée de trois circonstances. Puis, Monsieur le procureur de la République de Lyon a retenu effectivement le meurtre. Nous allons effectivement plus loin et nous avons déposé auprès des services de la Sûreté départementale du Rhône une plainte pour meurtre en bande organisée. Alors concrètement, qu'est-ce que ça signifie? Deux choses, très simplement et très rapidement. Premier point, il ne s'agissait pas d'une rixe, mais bel et bien d'un guet-apens qui a été minutieusement préparé. Alors, à ce stade, je reste néanmoins prudent. L'information judiciaire vient juste d'être ouverte. Trois magistrats instructeurs travaillent, mais néanmoins, nous avons quand même un faisceau de premiers éléments qui tendent à accréditer cette thèse du guet-apens. L'usage de messagerie cryptée par ce type de groupe. Les repérages, puisqu'il y aurait eu des repérages qui auraient été effectués en amont des violences sur Quentin. Le fait que les individus qui ont agressé Quentin, qui l'ont battu à mort, étaient armés, qu'ils étaient préparés, qu'ils étaient en surnombre et qu'il y aurait également des complicités. Et puis, deuxième point, la volonté homicide, très clairement, donc la volonté de tuer, avec le fait que ces individus, ces criminels, se sont acharnés sur Quentin.
Sur un homme au sol.
Absolument, qui était inanimé et qui gisait au sol.
Alors Fabien, je voudrais reprendre le mot guet-apens que vous avez employé. Et vous avez parlé de ces groupes. C'est intéressant. Vous avez parlé de guet-apens et vous avez parlé de ces groupes. Laurent Nunez, le ministre de l'Intérieur, va analyser des éléments qui ont été consultés par l'Humanité et BFM TV, des échanges privés qui datent du mois d'octobre. Pardon, on est sur un autre sujet. Le mois d'octobre, je tiens à le préciser. Des messages qui suggèrent que des cadres du collectif Némésis ont cherché à attirer des militants antifascistes dans un guet-apens, justement, à Lyon, en se coordonnant avec des groupes violents de l'ultra-droite. Ce matin, maître, est-ce que vous, vos clients, est-ce que vous pouvez garantir que ce n'est pas ce genre de jeu que se sont prêtés les différents acteurs de la scène qui s'est terminée par la mort tragique de Quentin Derenque?
Très clairement, et je vous dirais très clairement, moi je suis le conseil de la famille de Quentin Derenque. Voilà. J'entends qu'on puisse débattre sur les conditions dans lesquelles il a été infligé la mort à Quentin Derenque. Néanmoins, la question de la responsabilité de Némésis, la question de la violence que l'on peut constater entre groupuscules d'ultra-droite et d'extrême-gauche ou d'ultra-gauche, moi elle m'importe peu. Moi, très clairement, j'interviens dans le cadre d'un dossier judiciaire pour lequel une personne innocente, âgé de 23 ans, qui d'ailleurs n'avait pas de casier judiciaire, vous l'avez vous-même, je crois, noté à votre antenne, il n'avait pas de casier judiciaire.
Je l'ai rappelé. Fabien Rajon, si je vous pose la question, c'est que peut-être que vos clients se posent aussi des questions sur les fréquentations de leur fils. Je veux pas faire de polémique, mais on utilise depuis deux semaines le mot identitaire, nationaliste, extrême droite. Aucun antécédent judiciaire, rappelons-le, mais on parle d'une implication avec l'Action française, avec les Allobroges, avec Audace Lyon. Il a été tué il y a deux semaines par des antifas de gauche. Je dis tout, je vais être précis. C'est pas de la polémique, mais quel regard vos clients, les parents de Quentin Derenque, portent-ils sur ses engagements dans les derniers mois de sa vie?
Oui, vous avez raison de poser cette question. Cette question, on peut se la poser, mais si on est véritablement précis, on doit très clairement rappeler que Quentin n'était pas un gros bras d'extrême droite, qui n'avait jamais participé à ce type d'action, qui ne s'était jamais retrouvé en garde à vue. On doit aussi dire que c'est quelqu'un, on le doit pour la vérité, que c'est quelqu'un qui abhorrait toute forme de conflit, qui n'était pas violent, qui n'avait jamais été...
Ma question, Fabien Raison, c'est que vous disent vos clients des engagements de leur fils ces dernières années?
Alors, pardon de vous le dire, mais dans la relation entre un avocat et ses clients, il y a un principe qui est très clair, c'est la confidentialité. Moi, ce qu'ils me disent, en revanche, et ce que je peux vous dire très clairement, c'est que oui, il avait ses idées, oui, il avait ses engagements, mais qu'en revanche, il les concevait d'une manière absolument pacifique. et que rien, strictement rien, ne justifie qu'il ait été battu à mort, gisant au sol, par des individus déterminés à le tuer. Rien,
évidemment.
Strictement rien.
Évidemment. Fabien Rajon, maître Fabien Rajon, avocat des parents de Quentin Derenck, merci beaucoup d'avoir pris quelques minutes ce matin pour répondre en direct à nos questions au lendemain des obsèques de Quentin Derenck et du débat des municipales à Lyon, où il a été beaucoup question de ces événements à Lyon justement il y a deux semaines. 7h52. On est mercredi, c'est le jour de la voix de droite sur RMC. Bonjour Jérôme Lavrieux.
Bonjour.
Laurence Descartes est désormais l'ex-patronne du Louvre. Elle a présenté hier sa démission à Emmanuel Macron, démission accepté cette fois, 4 mois après le casse du Louvre.
Oui, et la crise au Louvre n'est que le symptôme d'un mal français qui, lui, est beaucoup plus profond.
A tout de suite sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Il est 7h53 et c'est l'heure du bonus. Victor Pourchet, on est mercredi, on parle ciné et ce matin, on part à Vegas.
Et direction les années 60-70 pour retrouver le King Elvis Presley, certainement comme vous ne l'avez jamais vu. Vous vous souvenez peut-être du biopic qui était sorti il y a 4 ans. Eh bien, le réalisateur Baz Luhrmann avait visionné pour le concevoir. Des heures d'archives, ce sont elles qu'il a rassemblées pour ce nouveau film qui s'appelle Epic. Après le retour de Presley de son service militaire, on le voit en couleur, s'il vous plaît, enchaîner les concerts, ça chante, ça danse, ça transpire. Et on le voit surtout un bon camarade et blagueur. Il se moque lui-même de ses propres films, assez mauvais si vous les avez déjà vus. Bref, celui-là s'appelle Epic, c'est un documentaire et ça sort aujourd'hui au cinéma.
RMC, Apolline Matin,
voix de gauche,
voix de droite.
Et à 7h54, on retrouve notre voix de droite, puisqu'on est mercredi. Bonjour Jérôme Lavrieux.
Bonjour.
Vous allez bien Jérôme ?
Ça va très bien.
La démission de Laurence Descartes dit-elle quelque chose du fonctionnement de l'administration, de la manière dont l'État gère ses grandes institutions ? On a appris la démission de la patronne du Louvre, démission acceptée hier.
Oui, après avoir été refusée il y a 4 mois. Laurence Descartes dit elle-même qu'elle était là pour prendre la foudre. C'est vrai, mais en l'occurrence, elle sert surtout de fusible. L'état du Louvre et la démission de Laurence Descartes, vient le souligner avec force, est le symptôme d'un pays qui bat des records d'imposition, des records de dépenses publiques et d'un État qui est tellement obèse qu'il en devient totalement inefficace.
C'est un symptôme du mal français, si je vous suis bien, quoi.
Oui, parce que arrivée au Louvre en 2021, elle dit avoir constaté à l'époque l'obsolescence des infrastructures. On tombe de notre chaise, sport olympique français dans la classe politique, en apprenant qu'il aura fallu 5 ans pour réaliser, je cite, un certain nombre de schémas directeurs et notifier en fin d'année dernière des marchés publics sur la sécurité. 5 ans. Le charme de l'administration administrante dont avait drôlement parlé la candidate LR en 2022.
Comment est-ce qu'on explique que la France, qui est quand même, faut le rappeler, capable d'exceller dans de grands domaines d'excellence, justement, peine à entretenir durablement ses infrastructures, des services essentiels bien sûr, mais voilà, des infrastructures symboliques comme le Louvre.
C'est assez simple. Les Français, jusqu'au vol des bijoux de la couronne, ça ne s'invente pas, pensaient que le Louvre était une fierté nationale. C'était d'ailleurs le symbole des grands travaux de François Mitterrand et Jacques Lang, qui a bénéficié de milliards d'investissements et de travaux dans les années 80 et 90. Le Louvre est dans le même état que le pays désormais. Incapable d'entretenir au long cours son patrimoine, à force de vouloir trop faire dans trop de domaines. Champion du monde des TGV, lanterne rouge des petites lignes de train. Champion dans le nucléaire, mais incapable de tenir les délais et les coûts d'un EPR. Champion dans la recherche médicale de pointe, mais incapable de garantir l'accès à un généraliste.
Est-ce qu'il faut, Jérôme Lavrieux, repenser le rôle, le périmètre de l'État pour éviter inefficacité chronique, voire un déclassement?
Oui, le Louvre doit marquer une forme de réveil brutal pour le pays. L'État doit se repenser entièrement, en faire moins pour être plus efficace et être plus efficace pour prélever moins dans la poche des Français. S'il ne le fait pas, alors un jour, nous pourrions nous retrouver dans l'État de l'Argentine et devoir sortir la tronçonneuse. Et ça risque cette fois-là de faire très très mal.
Merci beaucoup Jérôme Lavrieux, il est 7h57 sur RMC, dans un instant la météo et le journal, et Emmanuel Lechypre pour l'économie, Manu.
Mais oui, Manuel. Attention, il va falloir s'occuper de son épargne populaire, tout change.
A tout de suite.
Degré ou de force.
RMC jusqu'à 9h,
Apolline Matin.
Il est 8h sur RMC et RMC Story, un excellent réveil à toutes et à tous.
RMC. Apolline Matin.
Vous avez bien fait de choisir RMC puisqu'à 8h c'est l'heure du journal de Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour à tous, on vous emmène ce matin sur RMC à Reims dans une des 5 nouvelles boutiques Chine qui ouvre là ce matin, 3 mois après la première à Paris. Le groupe chinois, vous verrez, continue de se déployer en France. On vous détaille aussi sur RMC le contenu de l'ordonnance de mise en accusation du footballeur Achraf Hakimi renvoyé devant une cour criminelle pour le viol d'une jeune femme il y a 3 ans. Et on va vous expliquer aussi pourquoi on passe soudainement d'un record de pluie à un record de douceur.
Et c'est donc l'acte 2 du déploiement de Shein en France.
Oui, vous vous souvenez du lancement de la première boutique à Paris, c'était en novembre. Eh bien, il y en aura 5 de plus à partir de ce matin à Grenoble, Reims, Limoges, Angers et Dijon, dans les anciennes galeries devenues depuis des BHV. Ça a pris plus de temps que prévu face au tollé et toutes les critiques concernant l'ultra fast fashion. Célestin Bougère s'est donc rendu au BHV de Reims où une nouvelle boutique va ouvrir.
Nathalie range une chemise dans sa boutique de prêt-à-porter pour femmes quand on lui apprend que le Corner Chine au BHV va ouvrir aujourd'hui à quelques pas de là.
Pour moi, ça ne va pas changer grand-chose. Ma boutique, ça fait 3 ans, donc j'ai déjà une bonne clientèle.
Mais il suffit de prononcer le nom de la marque chinoise pour susciter un débat entre la vendeuse et ses clientes.
Vous achetez un électroménager, c'est chinois aussi.
Arrivé de Chine, vous en pensez quoi?
Je suis contre parce qu'on ne sait pas trop comment c'est fabriqué. Il y a tout qui s'en va, en fait.
Cette autre commerçante indépendante en prêt-à-porter pense que son chiffre d'affaires ne sera pas impacté. Mais c'est le symbole qui la dérange.
Nous, on n'a pas trop envie de les voir arriver. On est sur des éthiques complètement différentes. Donc forcément, les marges sont beaucoup moins importantes et c'est un peu plus cher, mais bon, un peu plus de respect, quoi.
À l'intérieur du BHV, le sous-sol s'apprête à accueillir l'espace Chine. Certains clients sont impatients.
J'ai déjà commandé sur Shein, donc en vrai, ça peut être pas mal de voir si les prix, c'est pareil que sur le site.
D'autres ont encore en tête les polémiques de ces derniers mois.
Avec les poupées sexuelles de taille enfant, la vente d'armes complètement ouverte à tous. Moi, je n'irais pas du tout.
De leur côté, les propriétaires du BHV assurent que l'implantation de Chine participera au dynamisme économique de la ville.
Alors, autre information du matin, celle-ci concerne le groupe SEB qui envisage de supprimer un peu plus de 2000 postes partout dans le monde, dont 500 en France sur la base du volontariat. Voilà ce que dit le groupe d'électroménagers qui l'explique, enfin, sa recherche à faire des économies. C'est dans ce contexte économique que les partenaires sociaux se réunissent aujourd'hui pour tenter de se mettre d'accord sur les nouvelles règles concernant les ruptures conventionnelles. Des ruptures de contrat à l'amiable en quelque sorte, ça permet de toucher le chômage, c'est la différence avec les démissions. Ça coûte trop cher, estime l'État, qui pousse pour un durcissement des règles. L'idée étant de réduire les durées d'indemnisation. Écoutez ce qu'on en pense à Bordeaux avec notre correspondant RMC Pierre Bourgès.
Il y a 4 ans, Adrien décide de quitter son travail pour créer son entreprise. Il demande alors une rupture conventionnelle que son patron accepte.
On a fait le choix de pouvoir bénéficier du chômage qui était une chance et du coup l'argent qui était généré par l'entreprise, ça nous a permis aussi de recruter et de créer des emplois derrière.
Cette indemnisation lui a permis de gagner près de 2000 euros par mois pendant 18 mois et si son entreprise a aujourd'hui plus d'une dizaine de salariés, c'est en partie grâce à cette aide au départ selon lui. Alors réduire à 15 mois la durée de l'indemnisation, ça ne le convainc pas.
15 mois, ça peut être trop juste. L'enjeu est peut-être pas sur réduire la durée, mais peut-être mieux filtrer les cas qui sont éligibles à la rupture conventionnelle.
Cette proposition du patronat prévoit aussi de diminuer de 30% l'indemnité chômage au bout de 6 mois pour certains allocataires. Une mauvaise idée pour Ludovic Rocher. Ce patron estime que le dispositif actuel bénéficie aussi bien aux salariés qu'à leurs employeurs.
L'inconvénient, c'est qu'il va moins facilement se projeter dans une sortie de sa société et qu'on va laisser des salariés rester en poste alors qu'ils ne sont pas contents de la situation. On va faire perdurer des situations qui n'ont pas intérêt ni pour l'entreprise ni pour le salarié, en fait.
Il craint que cette évolution entraîne aussi davantage de situations conflictuelles en entreprise.
C'est en Conseil des ministres ce matin qu'Emmanuel Macron devrait nommer Christophe Le Ribaud à la tête du musée du Louvre, lui qui est actuel président du château de Versailles et qui va donc certainement remplacer Laurence Descartes qui vient de démissionner dans la foulée de toutes les affaires et du cambriolage au mois de novembre. On vous détaille ce matin sur RMC donc l'ordonnance de mise en accusation du footballeur Achraf Hakimi. Vous le savez, renvoyé devant une cour criminelle pour le viol qu'il conteste d'une jeune femme en février 2023. Pierre Bazin du service police-justice à RMC, c'est vous qui avez consulté pour RMC cette ordonnance de mise en accusation après 3 ans d'enquête dans cette affaire.
Oui, dans ce document de 21 pages, il y a d'abord le récit constant et circonstancié de la plaignante, selon la magistrate instructrice. Malgré des approximations, elle décrit une soirée en tête-à-tête chez le footballeur, durant laquelle Achraf Hakimi se serait montré insistant, multipliant les contacts physiques et allant jusqu'à la pénétrer avec ses doigts. Ce soir-là, celle que nous appellerons Manon envoie des SMS à l'une de ses amies. « Je t'en supplie, dépêche-toi, il me viole !» Hakimi lui nie les faits. Il accuse par ailleurs la plaignante de chantage. Un SMS relevé par la juge d'instruction est mis en avant, message dans lequel l'ami de la plaignante, écrit « On va le dépouiller ». Manon défend une plaisanterie. Pourtant, plus tard, cette même amie cherche à faire disparaître des messages préjudiciables, selon ses mots. Par ailleurs, les avocats du footballeur reprochent également à la plaignante de ne pas avoir remis plusieurs éléments demandés par les enquêteurs, notamment son téléphone.
Alors, pas de commentaire de la part du Paris Saint-Germain, qui jouera ce soir à 21h, c'est le club d'Hakimi, contre Monaco, ce match barrage de Ligue des Champions, c'est le match retour, les Parisiens avaient gagné 3-2 le match aller. Arthur Perrault, vous suivez le PSG tout au long de l'année pour RMC, on est bien d'accord que là c'est la suite de la saison qui se joue ce soir pour les Parisiens.
Oui, et pour l'entraîneur parisien Luis Enrique, le match est loin d'être joué d'avance.
On est dans une compétition qui est différente. Après les matchs, il y aura une équipe dans ce match éliminé et ça répercute de la difficulté. Monaco va commencer ce match derrière un but. Il y aura des moments très compliqués, très difficiles et il faut savoir gérer ces moments. Et ce que nous pensons, c'est la meilleure manière de jouer ce match, c'est comme d'habitude. Chercher à gagner le ballon, chercher à avoir plus le ballon que l'adversaire, chercher à presser de la même manière, il n'y a pas résultat à défendre, il y a un match à gagner.
À l'aller, le PSG avait réussi à remonter un retard de 2 buts pour s'imposer. Un scénario qui pourra servir ce soir d'après Désiré Doué, l'attaquant parisien.
On a surtout gardé le positif de ce match-là et notre capacité à revenir dans un match où on est mené 2-0 à l'extérieur, c'est jamais facile, surtout en Ligue des Champions. Et il faut qu'on fasse la même chose. C'est ce qui va nous emmener à gagner ce match et les prochains matchs. Ça sera très important.
Le PSG a de quoi être optimiste. Il ne s'est plus incliné à domicile contre Monaco depuis le 21 février 2021.
Bon, et on est obligé d'en parler. On est au lendemain d'un des plus grands exploits, certainement, de l'histoire de la Ligue des Champions. La qualification des Norvégiens de Bodø/Glimt, qui a éliminé l'Inter, finaliste quand même de la saison dernière, en les battant à l'aller et au retour, donc encore hier soir, historique pour ce club de Norvège, donc qui est situé au nord du cercle polaire. Ouais.
Non, mais c'est inédit. Aller-retour, les deux victoires. L'aller, un accident. Non, c'est impressionnant ce qu'ils ont fait. Alors ce matin, si vous ne savez pas comment vous habiller pour aller au travail, c'est un peu normal, parce qu'on passe d'une extrême à l'autre en ce moment.
Géraldine de Mori, on passe effectivement d'un record de 40 jours de pluie pour le début de l'année à un record de 12 heures pour un mois de février. Comment ça se fait?
Alors déjà, on a retrouvé un anticyclone qui nous est défaut depuis début janvier. Et c'est un anticyclone qui arrive par le sud-ouest. Et c'est une position qui est plutôt inhabituelle à cette période de l'année. Et qui pousse du coup une masse d'air qui est particulièrement chaude. Donc ça a concerné surtout le sud-ouest hier. Ça arrive maintenant sur la moitié nord aujourd'hui. Les températures finalement vont baisser en fin de semaine. Mais on restera toujours au-dessus des normales. D'ailleurs, c'est vrai qu'on a un pic de douceur pour aujourd'hui. Mais en réalité, on est au-dessus des normales de saison depuis le 12 janvier. Et on n'avait jamais vu une séquence de douceur aussi longue en hiver. Et c'est vrai que ce soit les crues exceptionnelles ou la douceur hors norme, ce sont deux manifestations en tout cas du dérèglement climatique.
L'alerte rouge est levée pour les départements qui étaient concernés jusque-là pour les inondations. La décrue continue, on n'oublie pas, le niveau de l'eau a baissé d'une trentaine de centimètres en 24 heures à Angers, seulement d'une dizaine à Saintes où c'est un petit peu plus lent.
Merci beaucoup Quentin Vinet, c'était le journal, il est 8h08 sur RMC et RMC Story.
RMC, Apolline Matin.
Le chiffre d'affaires.
Et on retrouve Emmanuel Le Chypre pour l'économie. Rebonjour Emmanuel.
Bonjour à tous.
L'épargne populaire entre dans une zone de turbulence.
Oui, parce que de gré ou de force, les Français qui possèdent des produits d'épargne populaire doivent prendre aujourd'hui des décisions importantes. Et on parle de quasiment tous les Français, puisque sont ouverts aujourd'hui 58 millions de livrets A, 12 millions de livrets d'épargne populaire et 9 millions de plans d'épargne logement. Tiens, le plan d'épargne logement, parlons-en justement. Ce placement qui permet à la fois de placer son épargne, rémunérée à 2% depuis le 1er janvier, et d'obtenir aussi un crédit immobilier à un taux avantageux. Eh bien, attention, à partir du 1er mars, sa durée de vie est limitée à 15 ans, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'argent qui se trouve sur les plans souscrits en 2011, sera automatiquement versé sur un livret d'épargne classique et ces plans d'épargne logement seront fermés et après, tous les plans d'épargne logement signés après 2011, s'éteindront progressivement au bout de 15 ans. Attention, pour ceux qui sont antérieurs à 2011, là, rien ne change. Donc tout ça, c'est de l'argent qu'il va falloir gérer, qui va se retrouver sur de l'épargne classique et qu'il va falloir gérer, l'épargne populaire classique.
Ça, on le répète assez souvent, le livret A, de moins en moins intéressant.
Oui, Parce que effectivement, cet argent, il va arriver où il va arriver sur des livrets, etc. Mais c'est vrai que ce livret A et le livret de développement durable et solidaire, eh bien, c'est de moins en moins intéressant. Ça n'échappe pas aux Français d'ailleurs, hein, qui ont retiré de ces deux placements plus de 2 milliards d'euros en janvier. C'est du jamais vu depuis 2009. Jamais on a vu un début d'année aussi mauvais. Il faut savoir qu'en janvier, d'habitude, les gens mettent de l'argent sur leur livret A. Eh bien là, ils en ont enlevé. L'explication, bah, vous vous doutez bien que c'est le taux qui est redevenu très peu intéressant. 1,5% depuis le 1er février. Le problème, c'est qu'il y a trop de gens qui, du coup, vont laisser dormir leur argent sur leur compte en banque, et ça n'est pas non plus la solution.
Qu'est-ce qu'on fait, du coup? Où est-ce qu'on place ces économies, Emmanuel?
Alors, très clairement, c'est la fin des grandes années pour l'épargne populaire. Songez que, quand même, elle avait augmenté de 70% depuis 2015. Pourquoi? Bah, parce qu'elle était bien rémunérée et que l'assurance vie, à l'époque, rapportait peu, puisque les taux d'intérêt étaient globalement très bas, hein. Mais là, le balancier est en train de repartir vers l'assurance vie. Alors qu'est-ce qu'on fait? Il faut bien voir que cette épargne qu'on a sur le livret A, sur toute l'épargne réglementée, c'est l'épargne avec laquelle on ne veut pas ou on n'a pas les moyens de prendre des risques. Donc c'est la stratégie, ce que moi j'appelle la stratégie des cascades, ou bien la stratégie un peu plus chic de la piscine à débordement. Vous voyez, c'est-à-dire qu'en gros, vous avez une épargne avec laquelle vous ne pouvez pas prendre de risques. Donc vous allez massivement sur, effectivement, par exemple, l'assurance vie avec les fonds en euros, qui vont rapporter plus, hein, 2,7% cette année. Même avec les impôts, ce sera mieux que le livret A. Là, vous prenez pas de risques. Et puis, avec ce que vous considérez comme de moins en moins indispensable, et ben hop, avec ce qui déborde. Donc voilà, vous allez aller vers, par exemple, de l'assurance vie plus en unité de compte, un peu plus risqué, et puis la bourse, et puis un peu d'or, c'est bien aussi. Et puis regardez, le Bitcoin, là, il s'est quand même beaucoup cassé la figure. Ah, c'est peut-être pas inintéressant. Mais voyez, vous pouvez aller prendre un peu plus de risques comme ça
avec ce qui déborde,
avec l'épargne dont vous pensez.
Foncez pas dans le toboggan direct. Voilà, prenez la piscine à débordement.
Exactement.
On regarde l'image.
Exactement.
Aquatique.
Exactement.
Et dans 10 minutes, on vous envoie chez Bellambra en plus. Merci Manu Le Chypre, il est 8h11 sur RMC. Tiens, Jean-Claude est avec nous en direct de Perpignan dans les Pyrénées-Orientales. Bonjour mon cher Jean-Claude.
Bonjour.
C'est toujours un plaisir de vous entendre, Jean-Claude. Alors ce matin, je recevais le numéro 2 de la CGT, Denis Gravouille, et on a entendu Marie-Laure à Tours qui nous disait qu'elle a été plus ou moins forcée, poussée à accepter une rupture conventionnelle après le rachat de sa boîte. Et le représentant de la CGT nous disait en substance que les patrons mettent la pression. Vous, vous avez eu, et c'est pour ça que je suis très content de pouvoir vous entendre, l'effet inverse des salariés qui vous mettent l'effet la pression inverse. D'une autre manière.
Exactement, l'effet inverse. En 28 ans que je suis propriétaire de ma station, j'ai eu 3 personnes qui ont voulu faire des ruptures conventionnelles à partir du moment où elles ont été mises en place. J'ai considéré que ce n'était pas justifié puisque bon, ils ont un bon salaire, ils ont des horaires et je pense que je suis pas un patron trop mauvais. Et ben le résultat, c'était simple, à 3 fois la même chose, arrêt de travail derrière. Donc une fois, 2 fois, 3 fois. Bien sûr, quand ils vont voir les médecins, c'est où ils ont mal au dos ou ils sont stressés par le travail. Alors c'est vrai qu'on est ouvert 24 heures sur 24, donc on a une clientèle qui est des fois un peu excessive, mais bon, ils sont protégés, ils ont...
Mais vous, Jean-Claude, dans votre station-service, voilà. C'est important de l'entendre avec ces mots, c'est suite au refus de votre part d'une rupture conventionnelle que vous avez eu ces arrêts de travail et finalement cette autre manière de mettre la pression. Donc à la fin, vous avez fait
donc,
quoi
du coup... Ah bah, du coup, au bout d'un moment, vous êtes obligé d'accepter de faire cette transaction, c'est-à-dire faire la rupture conventionnelle, parce que ça déséquilibre le travail de tout le monde, donc il faut réembaucher, on peut pas tant qu'ils sont en arrêt de maladie. Parce que les CDD, les gens, ça les intéresse pas. Alors, quand vous leur dites, j'ai un CDD, mais peut-être de 15 jours, peut-être de 1 mois ou 3 mois, selon les maladies, les gens veulent pas venir travailler. Et comme les employés, quand ils se mettent en maladie, on leur paye le complément de salaire, ils perdent rien, donc eux, tout va bien, mais pour l'entreprise, c'est une difficulté.
Non, mais cette histoire de rupture conventionnelle, c'est intéressant. Hein, entre le patronat, les salariés d'un côté, le gouvernement de l'autre, finalement, l'impression parfois que patronat et salariés se mettent d'accord pour se rincer sur le dos de l'assurance chômage. Il y a 400 millions d'euros d'économies à faire, c'est ce que dit le gouvernement. La négociation reprend, si j'ose dire. Jean-Claude, merci beaucoup de votre appel au 32-16 ce matin.
Eh bien, merci beaucoup, passez une bonne journée.
À très bientôt, bonne journée à vous. Il est 8h14.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Et dans un instant, le meilleur d'Arnaud Demanche. Et puis à 8h30, l'invité du face-à-face, Emmanuel Bompard, coordinateur de la France Insoumise. Rendez-vous donc à 8h30 sur RMC et BFM TV. À tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
C'est tous les jours de manche.
8h17 sur RMC, il a pris quelques jours de vacances, mais il est quand même un peu avec nous, le meilleur d'Arnaud Demanche.
Bonjour tout le monde. Les amis, ce matin, avant de vous parler d'actu, j'ai envie de vous faire du bien. J'ai envie de vous donner un petit parfum de vacances. On part à la plage. Pascal, prenez votre maillot, tout le monde. Car le candidat RN à la mairie de Marseille, Franck Alizio.
Il y a un truc qui va pas dans votre phrase.
Non, mais non, c'était juste histoire d'aller à la plage. C'est pour vous parler de cette actu. Le candidat RN à la mairie de Marseille, Franck Alizio, propose d'interdire certaines plages aux jeunes à certains créneaux horaires. Alors là, Jean-Marc Morandini est très remonté. J'ai écouté l'émission, il disait « Et ce matin, dans Morandini Live, on va critiquer pour la première fois le RN dans cette émission avec la décision révoltante de Franck Alizio parce qu'on interdit tout aux jeunes, les trains, les restaurants, les plages, pourquoi pas les saunas naturistes, les backrooms et la fistinière. » Alors vraiment, on en parle avec mes invités, le cardinal Barbarin, Gabriel Madneff et Théo. Bonjour Théo, assieds-toi. J'imagine que parfois tu aimes te mettre en maillot de bain. Tu peux nous montrer ? Alors, pas de jeunes, voilà. Non. C'est plus une plage, là, c'est le Conseil constitutionnel. On va s'emmerder sur une plage sans jeunes. Même si ça existe déjà à La Baule, à Nice. Mais bon, c'est parce qu'il n'y a pas de jeunes tout court dans la ville.
C'est pas qu'ils sont interdits.
Non, il y a des baigneurs orange avec des poils blancs sur le torse, en mini-slip brillant, qui avancent prudemment sur les galets pour essayer de ne pas se péter le col du fémur avec leur femme qui leur dit « Oh, Valentin, tu fais un burnout !» Non, Pauline, c'est pas possible, je suis à la retraite depuis 30 ans.
Si, si, regarde ton slip, il y a la droite qui dépasse.
Oh non, oh non.
Enfin bref.
Comment je ne l'ai pas vu venir?
Bah, enfin, elle était tellement évidente. Puis c'est un classique en plus, hein.
Jack Lang est plusieurs fois cité donc dans ses documents relatifs à l'affaire Epstein. Il a déclaré assumer ses liens passés avec le financier américain.
Oui, alors ça, je voulais le faire le sujet parce que je vous ai entendu dans le couloir tout à l'heure dire à tout le monde « Mais c'est dingue ! Mais c'est dingue ! Mais t'as vu les articles ? Oh, c'est fou, non ? T'as vu cette affaire ? Jack Lang est encore vivant !» Eh oui, Jack Lang dans les dossiers Epstein.
Qui aurait pu prédire ?
Mais je suis comme vous, je suis ébaubi. Autant Jacques Delors, on n'aurait pas été surpris. Hein, cette petite allumeuse de Raymond Barre, on l'aurait vu venir. Baladure, la chaudasse, là, on l'aurait vu. Ça.
Évidemment. Oh, je suis une chaudière.
Moi aussi. Ouf, ouf, ouf. Plagelle-moi avec des poireaux.
Mais qui est encore Raymond Barre ?
Mais non, mais...
Ce petit dialogue Baladure-Raymond Barre.
Un petit parfum années 80, quoi. Allez, on est jeunes. Mais Jack Lang.
Non.
Jack, pas maintenant, Jack. Pas toi. Pas après tout ce que tu as fait. Alors, dans le communiqué de Jack Lang à l'AFP, l'ancien ministre de la Culture précise « C'est Woody Allen qui m'a présenté Jeffrey Epstein. » Woody Allen, quoi. Il y avait quand même un petit indice. « Mr. Lang, je vous présente ma femme, qui est aussi ma fille, et mon meilleur pote, Jeffrey, qui va nous emmener à bord du Lolita Express sur l'île du plaisir. » Oh, merveilleux. Enchanté. « Monsieur Lang, vous avez des préservatifs ?» Pas besoin, je suis déjà tout en plastique. Il y en a un qui doit avoir le seum là-dedans, c'est DSK. C'est la honte. C'est le seul homme blanc riche et puissant de sa génération qui n'est pas sur les listes. Il n'est pas invité. Ouh, le loser. C'est pour ça qu'il allait dans des clubs glauques à la frontière belge là, avec Dodo la Saumure et deux, trois vieilles travailleuses du sexe, flamandes et édentées. C'est parce qu'il n'était pas sur le Lolita Express, il n'avait pas le droit. Si ça se trouve, il était sur la liste noire du prédateur sexuel. Jeffrey, il disait « Ah non, non, pas DSK, trop obsédé, c'est un taré lui, on va avoir des emmerdes, j'en veux pas. »
8h21 sur RMC et RMC Story. Vous savez, à 8h21, vous savez ce qu'on fait, hein ? Eh ben, on accueille quelqu'un qui peut-être va partir en vacances grâce à RMC, qui ne sait pas encore qu'il ou elle a gagné. Allez, on prend, c'est parti. Bonjour Léo.
Bonjour.
Léo, vous êtes en Haute-Loire.
C'est ça.
Et vous partez en vacances. Félicitations.
Ah, bon, merci, c'est incroyable. Merci beaucoup.
Vous avez remporté un séjour d'une valeur de 2000 euros dans les clubs et hôtels Bellambra, le spécialiste des clubs de vacances pour les familles en France. 45 destinations, vous allez pouvoir choisir tranquille parmi les plus beaux endroits de France. 45 destinations, vous avez plus envie de montagne, de mer, vous avez une envie particulière ?
Plutôt de montagne, je pense. On va tester ça l'été. J'ai une petite qui arrive le 8 mars, donc c'est génial.
Bah écoutez, petite qui arrive le 8 mars, félicitations d'un avance, Léo. Et puis vous savez quoi, en plus, Bellambra s'occupe des enfants, des activités, des repas. Bon, elle sera un peu petite, un peu jeune encore, mais vous allez bien profiter, mon cher Léo. Je suis très heureux de vous offrir ces vacances. Félicitations.
Merci beaucoup, merci RMC, salut.
Et merci d'avoir joué, merci de votre fidélité, mon cher Léo. Il est 8h22. Dans un instant, le face-à-face avec Marie Chantrey qui reçoit Manuel Bompard, coordinateur de la France Insoumise. Ça, c'est à 8h30 sur RMC et BFM TV.
Merci d'écouter RMC, 8h24.
RMC, Apolline Matin.
Et le rappel des titres, Élise Dangean.
La mémoire de Quentin n'appartient pas à des groupuscules extrémistes, mais à tous les Français. Ce sont les mots ce matin sur RMC de l'avocat des parents de Quentin Derenque, ce jeune identitaire inhumé hier après son lynchage à mort par des militants d'ultra-gauche de la Jeune Garde, dont la reconstitution post-dissolution fait désormais l'objet d'une enquête par le parquet de Paris. Achraf Hakimi, renvoyé en procès pour viol à la demande de la juge d'instruction, qui met notamment en avant la cohérence de la victime présumée. Mais selon l'ordonnance de mise en accusation qu'RMC a pu consulter, le Marocain a annoncé faire appel de cette décision pour tenter d'éviter le procès. Qui pour succéder à Laurence Descartes à la tête du Louvre, 4 mois après le casse du siècle, Emmanuel Macron a accepté hier la démission de la présidente du plus grand musée du monde. Et il devrait annoncer ce matin en Conseil des ministres le nom de son successeur, probablement l'actuel président du château de Versailles, Christophe Le Ribaud. L'Assemblée se prononce à nouveau sur la loi pour une aide à mourir aujourd'hui, proposition qui va ensuite repartir au Sénat. Et puis c'est le grand jour pour Shein qui s'installe dans 5 villes françaises. 3 mois après Paris, la marque d'ultra fast fashion prend ses quartiers dans les boutiques BHV de Limoges, Angers, Dijon, Grenoble et Reims. Ouverture prévue à 10h. Le groupe d'électroménager Seb envisage de supprimer jusqu'à 2100 postes, soit moins de 7% de ses effectifs dans le monde et potentiellement 500 emplois en France sur la base du volontariat, annonce ce matin du groupe en marge de la présentation de ses résultats. En football, le PSG va tenter de valider son billet pour les 8e de finale de la Ligue des Champions ce soir face à Monaco. Autre affiche, le match retour Real Madrid-Benfica après une première rencontre marquée par des accusations de racisme. Rendez-vous à 21h sur RMC. Côté météo, pic de douceur aujourd'hui avec des températures dignes d'un mois de mai, parfois plus de 10 degrés au-dessus des normales de saison. Cet après-midi, il fera 11 à Strasbourg, 15 à Dijon, 16 à Perpignan, 18 à La Rochelle, 19 degrés à Lyon et Grenoble, 21 à Bordeaux. Et puis c'est enfin le retour du soleil après la dissipation des grisailles matinales. On pourra avoir un peu plus de nuages vers le golfe du Lion.
La météo sur RMC avec Penny Lane, l'outil qui réunit compta, facturation et compte pro.
Quand la compta va, tout va.
C'était le rappel des titres. Merci Élise Dangean. Dans un instant, le face-à-face sur RMC et BFM TV. Marie Chantrey reçoit Manuel Bompard, coordinateur de la France Insoumise.
RMC jusqu'à 9h. Apolline Matin. Face à face.
Il est 8h29 sur BFM TV et RMC. Bonjour Manuel Bompard.
Bonjour.
Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce matin parce que votre voix compte. Elle est attendue. Vous êtes, je le disais, le coordinateur de la France Insoumise, votre parti qui fait l'objet depuis maintenant une quinzaine de jours de très nombreuses critiques. On va y revenir point par point et prendre le temps. Des critiques que vous avez aussi beaucoup formulées vous-même. Votre parti, plus généralement, à l'encontre de la presse, des médias que vous qualifiez de traditionnels. En étant face à moi ce matin, Manuel Bompard, finalement, les vieux médias jaloux sont quand même un peu fréquentables.
Mais moi, vous savez, j'ai toujours considéré que, malgré le traitement que je trouve, pardonnez-moi, particulièrement abject à l'égard de la France Insoumise, il fallait aller mener la bataille politique partout, et y compris dans les médias. Mais là, vous faites référence dans votre question à une initiative que nous avons organisée lundi, qui est une rencontre avec ce qu'on a appelé les nouveaux médias, c'est-à-dire les médias qui sont présents exclusivement sur la scène numérique. Et je trouve que la réaction qui a suivi de ce que j'ai effectivement appelé des vieux médias jaloux, un petit peu pour les taquiner.
Vous nous avez dit pleurnichard.
Je trouve ça assez extraordinaire. C'est-à-dire,
c'est des méthodes quand même. Vous avez refusé d'accréditer certains médias traditionnels,
madame,
que vous considérez comme traditionnels.
Madame,
c'est des méthodes que vous critiquez d'autres parties il n'y a encore pas si longtemps.
Madame, il y a des médias, des nouveaux médias qui émergent aujourd'hui, qui sont des médias numériques, qui sont parfois des influenceurs, parfois des chaînes YouTube, parfois. Et c'est un nouvel espace médiatique.
Ils peuvent pas se retrouver ensemble.
Mais ce nouvel espace médiatique, c'est légitime de pouvoir lui donner de la place, de lui donner de l'espace. Vous pouvez pas considérer comme ça. Il y a que vous qui avez le droit de traiter l'actualité médiatique. Alors c'est pas parce qu'on fait un moment réservé à des nouveaux médias numériques que par ailleurs on parle pas aux médias plus traditionnels. On fait les deux.
Je reviendrai sur la qualification d'abject du traitement. Et encore une fois, pas uniquement BFM, bah,
je pense, visé, hein.
Et on y reviendra. Il y a quand même cet appel du patron de Reporters sans frontières qui parle d'une atteinte au droit à l'information des citoyens concernant cette conférence de presse.
Parce que
précisément, vous balayez complètement
cette
critique.
Parce que je pense qu'il se trompe, c'est-à-dire qu'il donne l'impression que nous aurions trié ou sélectionné
entre les
journalistes.
Mais
non,
vous faites un choix,
madame, quand vous faites un rendez-vous avec la presse internationale, bah, vous invitez la presse internationale et personne ne va vous dire vous avez trié, vous avez choisi que la presse internationale. Donc on fait des événements pour la presse internationale, on peut faire des événements pour les nouveaux médias et puis on fait des événements pour les médias traditionnels.
Et vous êtes là ce matin pour répondre à nos questions.
Donc c'est bien la preuve qu'il n'y a pas de difficulté sur ce sujet. Maintenant, si vous voulez que je revienne là-dessus, j'assume pleinement les critiques que je peux avoir vis-à-vis des médias politiques traditionnels.
Et vous assumez aussi, pardonnez-moi, parce qu'on va revenir sur notre traitement, pardonnez-moi, juste, mais des mots qui nous ont particulièrement choqués.
Allez-y.
De la part de la candidate à Paris, Sophia Chikirou, qui hier, ou avant-hier, parle particulièrement durement. Vous n'êtes pas journaliste, vous n'avez rien de journaliste, rendez la carte, vous êtes des petits agents, ce que Simone Veil, cite-elle, appelait les nazis à petits pieds. Est-ce que vous cautionnez, vous souscrivez cette description-là, ou vous désolidarisez, à l'instar d'ailleurs de votre candidate à Lyon, hein, hier soir,
mais précisément,
qui ne partage pas du tout ses propos.
Oui, mais précisément, pardonnez-moi, mais il faut être un peu vigilant. Je parlais d'un traitement médiatique que je considère problématique. Bah là, pardonnez-moi, mais en fait, la démonstration, parce que parce que la citation qui a été attribuée à Sophia Chikirou ne correspond pas à ce qu'elle a dit. En tout cas, la question qui a été posée hier à la candidate soutenue par la France Insoumise, Anaïs Belloua-Sachérifi à Lyon, ne correspondait pas à ce qu'a dit Sophia Chikirou, c'est-à-dire la question qui a été posée à Anaïs Belloua-Sachérifi, c'est Sophia Chikirou a dit que les médias, que les journalistes étaient des nazis, est-ce que vous êtes d'accord? Évidemment, Sophia Chikirou n'a jamais dit ça. Elle a dit qu'il y avait des militants d'extrême droite dans les médias et que sa volonté c'était de les chasser. Et si vous avez l'impression que ça ne correspond pas à la réalité,
il n'y a pas une volonté, encore une fois, d'enflammer encore une fois, alors que le temps peut-être est un peu à l'apaisement.
Absolument pas, madame. Absolument pas. Écoutez, qu'il y ait des militants d'extrême droite dans les médias et que nous ayons le droit de les combattre, ça me paraît être quand même le principe de la démocratie. Quand vous avez un groupe médiatique qui s'est constitué, qui a à sa tête Monsieur Bolloré, qui dit lui-même qu'il veut utiliser ses outils médiatiques pour mener une croisade idéologique et civilisationnelle. Si cette réalité-là, elle vous échappe, pardonnez-moi, moi, elle ne m'échappe pas.
Et encore une
Donc,
fois,
oui, il y a des militants d'extrême droite dans les médias.
Mais vous maîtrisez
et je pense qu'il faut les combattre.
Particulièrement les mots, le mot de nazi à petits pieds. Mais c'est mon intensence.
Après, si vous voulez qu'on parle de ça, il y a pas de problème. Mais quand vous avez sur ces groupes médiatiques, en quelque sorte, la table qui est servie pour des militants d'extrême droite, qui pour certains d'entre eux, effectivement, on est des nostalgies avec des groupes néo-nazis. Pardonnez-moi, le problème c'est pas que je le dise, le problème c'est que ça existe.
Et on reviendra notamment sur cette réunion qui s'est tenue hier à l'Élysée sur la volonté de s'attaquer à cette question une nouvelle fois, hein, et la dissolution de groupes d'extrême droite. D'abord, j'aimerais vous parler de Raphaël Arnaud. Séance hier à l'Assemblée nationale. Pas de Raphaël Arnaud au Palais Bourbon, absent depuis quasiment 15 jours. J'imagine que vous êtes en contact avec lui. J'ai envie de vous demander ce matin, comment va-t-il ?
Bah, il va pas bien. Je pense que comme tout le monde, il est d'abord dévasté par le drame qui a eu lieu à Lyon. Vous savez, Raphaël Arnaud, ça fait partie des militantes et des militants qui ont commencé leur engagement à Lyon contre précisément la violence. Et contre le fait
de la jeune garde,
exactement,
je le précise.
Et contre le fait que à Lyon, depuis des années, vous avez des groupuscules d'extrême droite qui attaquent des manifestations, qui s'en prennent à des personnes en raison de leur orientation sexuelle ou de leur couleur de peau, et que il y a des militants qui se sont organisés pour faire en sorte qu'on puisse tenir des manifestations.
Ça, j'entends parfaitement. Ben voilà. Mais sur le silence de votre parlementaire.
Non, mais attendez. Après, je parlerai, si vous voulez, de ce que vous appelez son silence, un silence avec deux tweets. Donc, je ne sais pas si vous appelez ça
En effet, au contrat avec ses assistants parlementaires mis en cause.
D'abord en disant sa compassion pour la famille de Quentin Dérenc, et deuxièmement en disant que évidemment c'était ce qu'il redoutait depuis des années à Lyon, que ces affrontements se terminent par un drame. Donc Raphaël Arnaud, il est comme tout le monde, il est dévasté par cette situation. Maintenant, effectivement, il n'est pas venu à l'Assemblée nationale hier. Pourquoi ? Mais je vais vous dire pourquoi. Parce que depuis que son nom a été jeté en pâture par des militants d'extrême l'extrême droite, puis relayé dans un certain nombre de médias, faisant fi de la présomption d'innocence, faisant fi du fait qu'il n'est concerné par aucune enquête judiciaire. Bah, Raphaël Arnaud, il reçoit tous les jours des menaces de mort sur la scène nationale comme sur la scène internationale.
Et ce n'est pas le seul d'ailleurs dans votre parti.
Évidemment que ce n'est pas le seul. Et donc oui, évidemment, il se protège.
A-t-il officiellement, avec ces menaces de mort, été placé sous protection policière ou en avez-vous fait la demande?
Je ne crois pas et pardonnez-moi, je comprends que vous me posiez la question, mais vous comprendrez que sur des questions aussi sensibles, le moins de choses on dit publiquement et plus on protège la personne qui en est ciblée.
Oui, vous faites bloc autour de lui depuis le début.
Heureusement.
Vous avez dit que finalement, un salarié ne devait pas finalement rendre des comptes, peut-être à son, en l'occurrence, la députée.
Rendre des comptes, il doit rendre des comptes.
Vous disiez encore une fois il y a quelques jours que, au motif qu'il ne saurait être tenu responsable des actes de ses salariés, Raphaël Arnaud, de ce qu'a fait notamment Jacqueline Favreau, pourquoi il serait mis en retrait ou pourquoi il devrait démissionner. Ça, c'est votre ligne depuis le début.
Mais c'est au-delà de base,
sans doute. Mais au-delà de ça, la vie politique, la vie publique est faite aussi de symboles.
Oui.
Est-ce que finalement, ça n'apaiserait pas? Vous ne pensez pas que c'est un début de réponse à l'apaisement, demandé par votre camp, demandé par les autres, de lui demander justement de se mettre en retrait? Est-ce que ce n'est pas une forme de suite logique?
Mais absolument pas, madame. Enfin, écoutez, il y a un principe quand même qui est un principe élémentaire dans notre société, c'est la responsabilité individuelle des actes qui sont commis. Mmh. Raphaël Arnaud, il n'est concerné par aucune enquête judiciaire, il n'a aucune responsabilité dans le drame qui a eu lieu à Lyon.
Mais du symbole.
Mais le symbole, madame, mais c'est pas du symbole. Lui, ses positions politiques à Raphaël Arnaud, elles sont connues de longue date. Il a toujours dit que lui, il rejetait la violence comme méthode politique. Donc ne dites pas qu'il a rien fait, il n'a pas rien fait. À partir du moment où son collaborateur a été impliqué dans cette affaire, après, on verra quelle est sa responsabilité, telle qu'elle sera déterminée par la justice. Parce que je vous rappelle qu'il y a quand même un certain nombre de principes en France, notamment la présomption d'innocence, notamment le secret de l'enquête.
Et une enquête est toujours en cours, évidemment.
Oui, mais ça fait depuis 10 jours. Ça fait depuis 10 jours que j'ai bien compris que ces principes, ils avaient été complètement bazardés. C'est-à-dire que désormais, on considère que parce qu'une personne est auditionnée ou qu'elle est mise en examen, elle est évidemment coupable. Non, d'abord, on n'en sait rien. Et deuxièmement, Raphaël Arnaud, lui, il a pris des mesures.
Mais vous constaterez notamment des propos qui ont été imputé à son assistant parlementaire en garde à vue ont été démentis et on a pu vérifier qu'ils n'ont pas été prononcés.
Voilà, mais c'est pourquoi il faut être extrêmement prudent.
Absolument.
Et je trouve que depuis 10 jours, pardonnez-moi de vous le dire, une partie, je dis pas tout le monde, mais une partie de la classe médiatique a fait absolument pas preuve de la prudence nécessaire. Et le gouvernement, qui normalement est astreint à un certain nombre de principes et notamment un principe de séparation des pouvoirs, s'est allègrement assis sur ce principe. Et ben moi, pardonnez-moi, mais s'il doit y avoir une dernière personne dans ce pays qui défend la présomption d'innocence, la séparation des pouvoirs, le secret de l'enquête et le secret de l'instruction, s'il doit y en avoir une dernière, ça sera moi, parce que je pense que c'est des principes élémentaires dans un état de droit.
Juste une question, dernière question sur Raphaël Arnaud. Mmh. A-t-il prévu à un moment donné, pardonnez-moi, de s'exprimer?
Mais d'abord, il s'est déjà exprimé à deux reprises. Donc, il s'est déjà exprimé à deux reprises. Ensuite, je pense qu'il s'exprimera à nouveau, mais c'est lui qui décidera dans quel calendrier il a envie de s'exprimer. Et encore une fois, je pense qu'il a dit sa compassion, il a dit son émotion après ce qui s'est passé à Lyon. Il a pris les mesures nécessaires pour se séparer d'un collaborateur qui est mis en cause dans cette affaire. Je vois pas pourquoi on continue à venir lui chercher à lui des noises, pardonnez-moi, et que ça vienne
parce
de madame...
Parce qu'il est député, il est élu de la nation et qu'il doit peut-être à un moment donné rendre des comptes.
Je pense que les comptes, il les a rendus, il continuera à les rendre parce qu'évidemment, mais on rend ses comptes à ses électrices et à ses électeurs. Et quand on est un député d'opposition, c'est certainement pas à Madame Bréjon, porte-parole du gouvernement, que nous avons à rendre des comptes. Parce que Madame Bréjon, qu'elle s'occupe d'être porte-parole du gouvernement et qu'elle aspire pas à organiser les groupes d'opposition. Parce que moi, j'organise mes groupes d'opposition comme on veut.
Qu'ils n'auront pas non plus à ses électeurs et ses électrices, en l'occurrence.
Mais si, évidemment qu'ils rendent compte à ses électrices et ses électeurs.
Sur le climat actuel, j'ai peur que ça se termine très mal pour l'un d'entre nous. C'est les mots d'Éric Coquerel, votre collègue insoumis. Vous partagez cette crainte, partagez cette peur.
Quand vous êtes mis en cause de manière absolument abjecte et de manière absolument infondée, comme c'est le cas depuis 10 jours, en expliquant partout qu'il y a un lien entre la France insoumise et le drame qui a eu lieu à Lyon, comme si on avait en quelque sorte une responsabilité dans ce drame, ça a des conséquences très concrètes. Les conséquences très concrètes, c'est des permanences parlementaires qui sont attaquées, des locaux de campagne qui sont attaqués, des candidats tête de liste de la France Insoumise aux élections municipales qu'on va chasser dans leur domicile pour mettre des tags à l'entrée de leur appartement ou de leur maison. Donc oui, évidemment qu'on est tous très inquiets de cette situation.
Dans cette campagne, justement, précisément, est-ce que vous avez certains de vos candidats qui s'interrogent sur leur engagement?
Ah, certainement pas. Parce
certainement
que,
pas.
Certainement
ça
pas.
Ça ne les fait pas du tout renoncer.
Ah non,
ce
au contraire,
climat,
ça nous fait de plus que jamais avoir conscience de la nécessité de mener la bataille contre l'extrême droite et la bataille antifasciste, parce que ces menaces, elles viennent évidemment des réseaux d'extrême droite. Et donc, moi, ça renforce ma détermination, ma vigueur. Et d'ailleurs, ça renforce la détermination et la vigueur d'un grand nombre de citoyens, parce que contrairement à ce que certains d'entre vous semblent croire, si vous pensez que ça isole la France insoumise dans le peuple français, ce qui est en train de se passer, c'est précisément l'inverse. Vous savez, la semaine dernière...
Même si les sondages disent que le barrage envers LFI aux prochaines
les sondages,
municipales...
Il y a eu 3 sondages municipaux qui ont été sortis depuis le drame de Lyon. On a gagné 4 points à Toulouse, 2 points à Avignon et 1 point à Lyon.
Et donc, vous en tirez quel enseignement?
Mais j'en tire comme enseignement qu'il y a des réflexes antifascistes qui sont très profondément ancrés à l'intérieur du peuple français et qui comprend bien dans cette situation que face à une dérive et à une instrumentalisation absolument indigne de ce qui est en train de se passer, qui produit une dérive fascisante d'une partie de la scène politique quand même, quand vous avez la candidate des Républicains à la mairie de Marseille qui reprend à son compte la devise qui était la devise de la collaboration, quand vous avez Madame Berger, quand vous avez Madame Berger, ministre du gouvernement, qui reprend à son compte l'anti-France, qui est un concept qui a été forgé par Charles Maurras, qui a été repris par la collaboration pour désigner les Juifs et les étrangers, qui reprend ce concept-là à son compte, eh ben, il y a plein de gens qui se disent, oh là, on va pas se laisser faire comme ça. Et donc, vous avez, par exemple, à la France Insoumise, la semaine dernière, 2500 personnes qui ont décidé de rejoindre la France Insoumise. C'est 10 fois plus que la semaine précédente.
2500 personnes en plus.
10 fois plus que la semaine précédente.
D'inscription pour votre parti.
Et voilà.
Sur
ça
le...
a des conséquences aussi, c'est qu'il y a des réflexes antifascistes dans ce pays. Et moi, j'appelle les gens qui veulent mener cette bataille et cette lutte implacable à nous rejoindre, parce qu'on a besoin de force dans
en
cette bataille.
En appelant aussi peut-être à calmer le jeu. Vous aussi, vous faites partie du débat public et politique. Jean-Luc Mélenchon doit normalement se rendre à Lyon demain, je crois, pour un grand meeting. Est-ce que vous avez eu des alertes des autorités de crainte de débordement?
On organise comme toujours dans tous nos meetings. Tous nos meetings se sont toujours bien passés, malgré le fait qu'ils ont fait l'objet d'un certain nombre de tentatives de perturbation.
On n'a pas tenté de vous dissuader d'aller sur place.
Non, et je vois pas pourquoi on dissuaderait d'aller sur place alors que la campagne électorale des élections municipales est en cours. Quant à calmer le jeu, madame, moi je veux être très clair. Moi, mes moyens d'action, y compris contre l'extrême droite, c'est des moyens d'action démocratiques, larges, pacifiques. Et c'est pourquoi j'appelle tous les gens à utiliser leur bulletin de vote, notamment le 15 et le 22 mars prochain à l'occasion des élections municipales, pour en faire aussi un vote de résistance antifasciste.
J'évoquais cette réunion qui s'est tenue autour du chef de l'État Emmanuel Macron hier à l'Élysée, sur ces mouvances extrémistes d'extrême droite ou d'extrême gauche, en présence notamment du ministre de l'Intérieur ou du garde des Sceaux. Est-ce que vous saluez l'initiative? Vous avez évoqué tout à l'heure l'absence, vous déploriez l'absence de séparation des pouvoirs, si je vous entends. Une réunion qui devait se tenir.
C'est surtout que c'est d'une hypocrisie absolue, madame.
Pourquoi?
Parce que vous réunissez le mardi en disant que vous allez dissoudre un certain nombre de groupes, et notamment un certain nombre de groupes d'extrême droite, alors que le samedi, vous les avez laissés défiler dans les rues de Lyon et faire une parade néo-nazie dans laquelle vous aviez des saluts nazis, des insultes homophobes et des insultes racistes.
La décision a été prise de dissoudre 4 nouvelles structures, dont 3 d'ultra-droite et une d'ultra-gauche.
Par exemple, tout le monde sait à Lyon qu'il y a un groupe qui s'appelle maintenant Audace Lyon, qui avant s'appelait Lyon Populaire, qui a été reconstitué, et qui a un groupe à l'origine d'un certain nombre d'agressions qui ont lieu, en particulier dans le Vieux-Lyon, des agressions racistes, des agressions homophobes. Et ces gens-là, on les a laissés défiler dans la rue samedi. Et maintenant, 2 jours après, on va dire qu'on va faire des dissolutions, mais pas eux.
Mais
donc je trouve que c'est d'une hypocrisie absolue, pour vous dire les choses franchement.
Hypocrisie absolue, mais décision a aussi été prise de saisir la justice pour reconstitution de ligues dissoutes concernant le mouvement cofondé par Raphaël Arnaud, la jeune garde. Vous dites quoi ce matin? Que la justice fasse son travail? Vous aiderez la justice peut-être?
Si la justice a besoin de... Enfin, je sais pas si elle a besoin d'aide, mais c'est d'abord une décision du ministre de l'Intérieur que je trouve assez opportuniste politiquement, parce que si le ministère...
Après, il y a des faits qui sont posés.
Oui, mais justement, madame, les faits dont il est question, c'est qu'il y aurait eu des réunions dans plusieurs villes. Alors, pourquoi avoir attendu le drame de Lyon, si c'était effectivement le cas, pour poser cette question à la justice? Vous voyez bien que c'est un calendrier politique qui vise à tout prix à essayer d'imputer à la Jeune Garde en tant qu'organisation une responsabilité dans le drame de Lyon. Ce que aujourd'hui, rien dans l'enquête ne dit d'ailleurs.
Encore une fois, je le dis, trois mouvements du
droite
ont appelé à être
mais le problème, c'est que vous voyez bien que les dissolutions, bon, d'abord, c'est une décision arbitraire d'un ministre. Moi, je suis pour les dissolutions judiciaires. C'est à la justice de faire son travail. Et deuxièmement, vous voyez bien
arbitraire,
qu'une dissolution.
Pardonnez-moi, c'est en arbitraire. Coordination aussi avec les autorités, avec le renseignement.
Mais c'est pas une décision de justice, madame. C'est une décision qui est prise par le
et
ministre
après, la justice
de l'Intérieur.
Fait son travail aussi.
Ah, bah, pas sur les dissolutions. Sur les dissolutions, vous avez ensuite la possibilité de faire un recours auprès du Conseil d'État. Et notamment, il y a eu un an une dissolution, enfin, une annonce de dissolution de la Jeune Garde qui à l'époque s'appuyait sur des motifs qui étaient des motifs absolument
loufoques. Sur laquelle d'ailleurs vous avez vous-même fait un recours et qui
est toujours en train
d'être...
Nous avons soutenu le recours qui avait été fait parce qu'en 8 ans il n'y avait aucune condamnation d'aucun fait par rapport à la Jeune Garde.
Manuel Bompard, le temps file très vite, mais on est effectivement à quelques semaines de ces élections municipales. Concernant votre stratégie, les critiques de vos anciens alliés, notamment socialistes, sont extrêmement vives. Quel est votre positionnement? Parce que Jean-Luc Mélenchon, justement, à cette conférence de presse à laquelle nous n'étions pas conviés, a parlé de néanmoins fusion technique possible avec des partis de gauche. Ça veut dire quoi exactement?
Alors, je vais vous dire, nos positions, elles sont très simples. Nos positions, c'est de dire aux électrices et aux électeurs, partout où vous nous mettrez en tête, à gauche, au soir de l'élection municipale, et partout où il y aura un risque que la droite et l'extrême droite s'emparent des villes, nous organiserons le rassemblement pour battre la droite et l'extrême droite. Pourquoi? Parce qu'une ville dirigée par la droite, qui est de plus en plus extrémisée, ou par l'extrême droite, c'est
donc
un
des alliances avec le Parti Socialiste est tout à fait envisageable.
Nous, on proposera à toute la gauche de se rassembler partout où on arrivera en tête. Là où on n'arrivera pas en tête, il appartiendra...
Malgré les querelles.
Écoutez, franchement, il y a un certain nombre de dirigeants du Parti Socialiste qui ont fait des, de ce qui est, de mon point de vue, une faute historique majeure. De mettre sur le même plan des fascistes et des antifascistes. Pourquoi on demandera un certain nombre
et
de
vous
garanties,
vous en
madame?
Expliquerez avec eux.
Attendez, c'est pourquoi on demandera un certain nombre de garanties, madame. Le rassemblement, il n'est possible qu'avec des gens qui disent clairement au deuxième tour d'une élection comme l'élection présidentielle qui voteront à gauche face à l'extrême droite. Pas qui feront du nini. Donc ça sera des clarifications qu'on demandera. Et sans ces clarifications-là, ça me paraît extrêmement difficile d'avoir quelques rassemblements que ce soit.
À la fin de cet entretien, juste une clarification. Motion de censure étudiée aujourd'hui, déposée par votre groupe, mais également déposée par le Rassemblement National. On a appris hier que le RN ne voterait pas la motion insoumise compte tenu du climat politique. Il ne nous est pas possible de voter une motion. Vous dites quoi? Bon débarras. Vive la clarification
non, je dis
là
que c'est
aussi.
Pas, je dis que c'est pas nouveau que le Rassemblement National cherche tous les prétextes possibles pour essayer d'empêcher de faire tomber le gouvernement. Maintenant, il y a effectivement une motion de censure. Pourquoi? Parce que le gouvernement décide tout seul ce qu'on appelle une programmation pluriannuelle de l'énergie, c'est-à-dire des
et qui
décisions
est passé par décret,
des décisions majeures qui engagent des dizaines de milliards d'euros d'investissement, qui veut nous amener dans un tout nucléaire avec des nouveaux EPR, alors qu'on a besoin de développer les énergies renouvelables, qui ralentit le rythme de développement des énergies renouvelables, et il le décide tout seul.
Merci.
Et ben ça, c'est pas normal. Donc on censure le gouvernement.
Merci beaucoup Manuel Bompard d'avoir été avec nous ce matin sur RMC. Il est 8h47 sur BFM et RMC.
Merci Marie Chantrey. Dans un instant, on va sourire avec Nicolas Canteloup, face à Canteloup sur RMC.
RMC, Apolline Matin,
8h50, face à Canteloup.
Michel-Édouard Leclerc était l'invité d'Apolline dans le face-à-face. Souvenez-vous, il était resté face à Canteloup.
Bonjour, moi je vote Canteloup.
Si vous l'entendez, un moment de bourse, souhaitez-vous dire un mot, Michel-Édouard Leclerc?
Salut la compagnie. Bonjour Michel-Édouard, mon collègue entrepreneur.
Voilà.
Hein. Bon, Michel-Édouard, il y a un truc que je comprends pas. T'as la vista, on le sait. Je comprends pas que t'aies laissé Intermarché s'approprier l'image du loup. Alors que t'es quand même beaucoup plus légitime qu'eux. En plus, t'es breton, tu peux faire plus fort qu'eux. Tu fais le loup, le renard et la belette. Bon, bref, parlons de ce qui intéresse tout le monde. Hein, et c'est de savoir si t'y vas ou t'y vas pas. Je parle pas d'ouvrir des supermarchés Leclerc au Groenland. Hein, on parle de bien 2027. Hein, quoi à propos du Groenland, en parlant de ça, vous savez que j'ai été contacté par la marque Picard
non.
pour développer des supermarchés au Groenland. Et j'ai, ben oui, et là, c'est une super idée. J'ai décidé de déployer tout ça, Picard au Groenland, parce que t'économises sur la chaîne du froid.
Ouais,
ouais, j'ai toujours un coup d'avance. Bon, écoute, Michel-Edouard, je te laisse réfléchir pour le 2027 et surtout pour le loup, le renard et la belette.
Marine Le Pen a donc dû affronter les réquisitoires du procureur, des réquisitoires d'une sévérité exemplaire.
C'est formidable. Formidable, ça fait plus de 20 ans, Madame Malherbe, et que je suis en politique, que je réclame à corps et à cri et des peines exemplaires, plus de sévérité de la justice. Personne, jamais personne ne m'a jamais écouté. Et là, comme par hasard, c'est moi qui suis dans le box des accusés, et là, la justice découvre la sévérité. Merci, mesdames, messieurs les juges.
Bon, en tout cas, c'est fichu pour l'Élysée, là.
Oui, attendez, comment c'est foutu pour l'Élysée? Attendez, pour 2027, je suis d'accord avec vous. Mais attendez, il y a 2032.
Ah, oui, c'est vrai. Oui.
Alors, Jordan, il prend le job en 2027, mais maman reprend la boutique en 2032.
Ah, voilà. D'accord.
Pourquoi vous me regardez comme ça? Je suis trop vieille, c'est ça?
Non,
Non, mais écoutez, en 2032, j'aurai 63 ans, voilà. Voilà. Oui, mais 63 ans, mais en politique, excusez-moi, on est à peine pucelle à 63 ans.
Pour faire un point donc sur la situation de notre pays, nous recevons Emmanuel Macron. Monsieur le Président, bonjour. Après une longue séquence à l'international, vous enchaînez depuis plusieurs jours des déplacements en France.
Oui, c'est vrai, chère Apolline de Malherbe, que depuis un an, parmi tous mes voyages à l'étranger, le pays dans lequel je suis le moins allé, je crois que c'est la France.
Ah oui.
Donc j'essaye de me rattraper. Lundi, c'est vrai que j'étais au Salon du Vin, j'ai lancé une cuvée for sure. C'est une réalité, c'est vrai, c'est pas une fausse info. Hier, j'ai inauguré un four électrique à Dunkerque. Demain, grosse journée, je suis à Bar-le-Duc pour la mise en service d'un lave-vaisselle. Vendredi, je suis à Niort pour inaugurer le nouveau rond-point Franck Michael. Et samedi, je donnerai le coup d'envoi de la médiathèque Adil Rami à Châteauroux. Vous voyez, on peut œuvrer à l'international, mais aussi être au plus proche des Français.
Oui, enfin, c'est tout à fait la même envergure quand même quand vous vous occupez d'international.
Ah, ben alors là, ça, chère Apolline de Malherbe, je suis bien d'accord avec vous.
Ben. Bien sûr.
Ah mais ça c'est vrai que ça s'est un peu calmé, hein, Monsieur Marshall, nous en parlions ensemble dans une vision dans les couloirs, le Groenland, le Venezuela, l'Iran, il y a plus grand chose à faire là-dessus. C'est vrai que ça roule. D'ailleurs, je vais vous faire une confidence. Chaque jour, j'espère que Trump va faire une nouvelle dinguerie.
Voilà.
Mais oui, mais c'est ça qui me permet d'exister. Du coup, faudrait presque qu'en off, je pousse mon Donald à attaquer l'Iran ou envahir le Canada.
Patrick Bruel lance une nouvelle tournée intitulée « Alors regarde 35 ». Elle fête les 35 ans de son album culte « Alors regarde » qui lançait la Bruel Mania.
Ouais, c'était fou cet album. Avec des tubes, « Alors regarde », »,« Place des grands hommes »,« Je te lis quand même »,« Casser la voix ». Et que des tubes.
Oui, ben, on oublie, effectivement, ben, c'est la ferveur de l'époque. Une fois que vous avez même dû être escorté par la police, c'était dingue.
Ouais.
Vous mangiez dans une pizzeria sur les Champs-Élysées, vous avez été obligé de...
Je m'en souviens comme si c'était hier, il y a des milliers de filles qui s'est passé le mot et qui m'attendaient devant le resto, il y avait une émeute, impossible de sortir, j'ai dû appeler la police.
Donc 35 ans se sont passés, vous lancez une tournée pour fêter ça, dans quel état d'esprit êtes-vous?
Ouais, mais honnêtement, Apolline, je vais dire, j'ai une petite appréhension quand même, toujours une petite peur, quand même une petite peur.
Peur
mais...
de quoi? Que le public soit pas au rendez-vous?
Non, que le même public soit au rendez-vous. Non, parce que tu comprends, les filles qui criaient Patrick, à l'époque, elles avaient 25 ans, et 35 ans plus tard, ben, elles en ont 60. Ah ouais, putain, t'imagines l'angoisse si demain je vais manger dans une pizzeria et là que je suis bloqué par des milliers de petites vieilles qui m'attendent à la sortie.
Ça, c'est moins de l'amour.
Oh putain, j'ai l'image. Une marée humaine de cheveux bleus qui soulèvent leur déambulateur et qui me jettent leurs dentiers en criant Aïk, hein, oui, ah bah, ben... oui, parce que sans leur dentier, on comprend pas que dalle de ce qu'elle dit.
Hein. Ouais.
Pourquoi, non, mais pourquoi j'ai fait cette tournée? Tu crois que je peux annuler?
Non, mais ça va être très bien, Patrick. Et puis, vous allez chanter votre tube. On s'était dit rendez-vous dans 10 ans.
Ouais, mais enfin, quand tu donnes rendez-vous dans 10 ans à une fille de 25 ans, c'est cool. Mais une fille de 60, hein, c'est pas sûr qu'elle soit encore là dans 10 ans. Hein. Même jour, même heure, même pomme. Mais il y a des risques qu'elle soit flétrie, la pomme.
Merci, Patrick. Tiens, dans mon bout, vous êtes de retour.
Oh,
et pourquoi vous venez?
Oh oui, j'ai entendu le Gabruel.
Ouais, le Gabruel.
Et ça m'a donné une super idée pour Michel Edouard.
Ouais.
Une idée 3 en 1. Tu récupères l'image du loup, tu niques Intermarché et tu te positionnes pour 2027. Vous êtes prêts?
Oui, on est prêts. Oui,
3-4.
J'ai besoin quand même, tout le monde le comprend. Une marque repère, c'est pas marrant. Marc, on m'interroge sur le prix d'une plaque de beurre, le prix d'une boîte de falsifie, car aujourd'hui je pense à l'Élysée.
Je pense
à l'Élysée. Les gens me connaissent grâce aux rayons produits frais. Mais ont-ils cherché à savoir d'où me viennent mes joies et cette envie de pouvoir cacher au fond de moi.
Exceptionnel.
Merci Nicolas Canteloup, que l'on retrouve demain à 8h50 et à tout moment en podcast. Dans un instant, les GG avec Alain Marchal. Bonjour Alain, quel est le programme?
On va avoir de sacrées discussions dans les GG, dans les grandes gueules, avec Charles Consigny, Antoine Dierce et Lina Dumont. On va revenir sur ce qu'a dit la candidate à la mairie de Paris, vous savez, Sophia Chikirou, candidate pour la LFI. Elle estime que les fascistes aujourd'hui ont envahi les plateaux télé. Et qu'il faut les dénoncer, il faut les virer des plateaux télé. Alors, est-ce que c'est vrai ou pas? On reparlera aussi de cette volonté de dissolution des groupes violents. Là, en ce moment, c'est les groupes de droite nationaliste qui sont dans le viseur du ministère de l'Intérieur. Alors, est-ce que ça peut être efficace, la dissolution? Oui ou non? Vous venez commenter ça avec les GG au 32-16. Et puis, nous recevrons aussi dans les grandes gueules l'ancien enquêteur de l'Office central cybercrime de la police judiciaire. Il s'appelle Gilles Galou. Et il a enquêté sur l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès. Il pense savoir où se trouve Xavier Dupont de Ligonnès, outre-Atlantique. Pourquoi? Quels sont les éléments dont il dispose? Eh bien, vous venez écouter ça dans les GG, dans les grandes gueules, dans un instant.